Bienvenue sur Radio Calvi Citadelle et Radio Balagne. Cette musique, vous la connaissez parce qu'elle vous a accompagné durant plus de 2 mois sur notre antenne, également sur Radio Balagne lorsque la station de Lirousse rediffusait en confinement. Anto à la technique ce matin, avec de nombreux invités, on va parler, vous savez, de ce syndicat, de ce collectif de gens qui, à un moment donné, ont envie de faire bouger les choses concernant notamment cette crise du coronavirus et surtout de ses répercussions économiques. Et pour cela, on va avoir donc plusieurs personnes au micro ce matin. On est en direct également sur Facebook et je vais sans plus tarder passer la parole à Laurent Lafarge qui est un peu le maître à jouer et un peu le déclencheur de ce collectif. Laurent, bonjour. Bienvenue sur RCC.
Bonjour tout le monde.
Comment on va ?
Eh ben on va bien. Nous sommes en forme. Nous sommes matinales.
Détendu pour cette émission de radio.
Oui, ça va aller.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu d'abord les gens qui seront là avec nous ce matin, et puis également le but de cette émission et également du collectif.
Alors, autour de nous, il y a Pierre Acquaviva qui est agriculteur. Il a été président de la Chambre d'agriculture il y a quelque temps. Nous avons Fabien Recaser qui a le Tramare Monti à Calvi et qui est acteur de l'activité saisonnière. Nous avons Bernard Guidicelli qui est hôtelier et aussi président de l'UMI, et Olivier Biancogne qui est quoi au fait, Olivier, toi? Non, Olivier, donc, qui est acteur au niveau, donc, ici, du tourisme, et, on peut dire, pas maître de conférence, on dit, comment on appelle ça,
conférencier,
oui, voilà, voilà. Et qui a une analyse incroyable, donc, de l'économie locale. Donc, et moi, moi je suis Laurent Lafarge, donc je suis calvé et issu d'une famille assez connue, je dirais, ici à Calvi. Donc mon père a animé quelques soirées dans les années 80 au cabaret Asta, là, Michel Lafarge, et je suis rien d'autre que le neveu de Feu Maryse Nicolai, chanteuse insulaire, qui n'est rien d'autre que la sœur de ma mère. Voilà. Donc, avant de vous parler du collectif, j'aimerais juste poser le décor, si vous me le permettez. Donc, chaque année, à peu près, donc depuis 10-15 ans, nous faisons un bilan de la saison, et chaque année, la majorité des acteurs du tourisme nous disent que les saisons ne sont plus celles qu'elles étaient avant. Voilà. Donc, on imagine, et on constate même, qu'il y a eu de belles saisons. Alors, moi qui suis un enfant de la Balagne, j'ai connu cette époque, justement, où la foule était si dense que l'on avait du mal à circuler en ville. De nos jours, ces mêmes périodes, nous constatons que la foule est beaucoup plus fluide. Alors le constat est simple. Que s'est-il passé? Alors que d'autres régions ont augmenté de manière considérable le flux touristique, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est que notre destination, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons, n'est pas le problème de cette désertification touristique, étant donné que nous avons connu ces belles années. Puis un autre constat a fait son apparition. C'est que d'année en année, moi qui suis commerçant, acteur économique non lié au flux touristique de la saison, et on reviendra sur ce sujet un peu plus tard, que chaque année, mes ventes changent de manière considérable lors des prétendues mauvaises saisons. Alors je me dis, je me pose des questions et puis je discute avec d'autres acteurs économiques locaux qui n'ont pas de lien non plus direct avec le tourisme, comme des plombiers, des artisans, des artisans du bâtiment, etc. quoi. Et eux aussi subissent cette même influence au même moment que moi. Mais je me dis une chose, le constat il est là, il est réel. Nous sommes, malgré nous, liés au flux économique du tourisme. Donc je me suis dit que si nous réunissions, nous tous, acteurs professionnels, liés directement ou indirectement au flux touristique, nous pourrions analyser pourquoi nous en sommes là et quels sont les avis de chacun. Y a-t-il une solution pour retrouver du flux touristique ? Y a-t-il une solution pour que notre économie soit plus linéaire tout au long de l'année ? Bref, y a-t-il une solution pour vivre de manière plus stable ? Tout simplement. Puis, cette année, nous avons vécu une crise sanitaire sans précédent, plongeant l'économie totale de la nation au point mort. Alors là, je me suis dit, nous sommes finis. Nous allons mettre la clé sous la porte. C'est terminé. Mais n'étant pas d'un tempérament défaitiste, je me suis dit encore une fois, il y a encore une chance, non pas de sauver la saison, mais de limiter la casse. Car une chose est sûre, c'est casse il y aura. Alors, j'ai créé un groupe Facebook pour essayer de trouver de l'aide et mettre en place ce que je m'étais dit juste avant, donc créer un collectif interprofessionnel avec un but commun, stabiliser notre économie locale. Puis quelques personnes ont trouvé l'idée bonne et m'ont rejoint. Et alors que je naviguais sur les réseaux sociaux, je m'aperçois qu'un autre groupe Facebook était créé sur l'île Rousse, intitulé « Balagne entreprise impactée Covid-19 ». Alors j'ai pris contact avec l'administrateur, qui n'est autre que Michael Pedrosa, dirigeant du restaurant La Bodega à île Rousse, en lui proposant de s'associer pour œuvrer ensemble. Puis ensuite, j'ai contacté le collectif des hôteliers, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a été créé l'an dernier, et qui était représenté par François Aquavive, Jean-Baptiste Checaldi, Jean-Pierre Pinet, André Doriano et Bernard Vidicelli. Mais aussi, j'ai contacté les responsables des associations des commerçants de Calvi, représentés par Maggie Brandalogne, et d'Île Rousse, représentés par Gilbert Barraquille. Puis, étant donné que je suivais les posts très intuitifs de l'analyse d'Olivier Bianconi sur Facebook, je décide aussi donc de le contacter. Et voici que le collectif commence à voir le jour. Entre-temps, d'autres personnes me contactent en me disant qu'ils veulent aussi participer. On sent réellement déjà un engouement prononcé pour le but du collectif. Malheureusement, mesures sanitaires obligent, nous ne pouvons pas nous réunir à plus de 10. Alors je décide d'appeler toutes les personnes qui m'ont contacté par message pour me demander d'assister donc à ces fameuses réunions. Et croyez-moi, j'ai pris sur mon temps pour appeler tout le monde. Mais la liste est longue et je m'excuse par avance à ceux que je n'ai pas pu encore pu contacter. Et je vous promets de le faire dans les prochains jours. Alors si vous voulez aussi, vous, si vous vous reconnaissez dans ces idées et que vous aussi vous voulez participer à l'élaboration d'une économie meilleure, alors venez nous rejoindre. Le collectif a pour vocation d'être une association entièrement démocratique et participative. Elle est et sera entièrement apolitique. Nous ne sommes pas là pour critiquer ce qui a été fait ou même ce qui n'a pas été fait par nos élus, mais plutôt pour les conseiller en tant que chefs d'entreprise et leur présenter des solutions pour faire évoluer notre économie. Voilà un petit peu le paysage, la vue que moi j'ai de ce fameux collectif et comment on peut arriver à regrouper le maximum de personnes. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter, à écouter tout ce qui va se dire. Et si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous avez plusieurs moyens, tout simplement par le groupe Facebook. Il y a deux groupes Facebook qui existent, donc celui des collectifs professionnels de Balagne et le groupe Balagne Entreprise impacté par le Covid-19. Et vous avez aussi un mail que l'on donnera plus tard à Anto, qui mettra sur tout simplement la page Facebook et site de Radio Calvi Citadelle.
Alors on rappelle également simplement que cette émission donc est enregistrée et qu'elle sera donc disponible dans les heures qui viennent sur également notre site web. Vous pourrez la réécouter donc à volonté.
Voilà.
Laurent.
Donc, on va laisser place un petit peu au débat avec les acteurs qui sont avec nous. Je vais laisser ma place à Olivier, qui est un bien meilleur orateur que moi. Et je reste à côté. Si vous avez des questions en live sur Facebook, n'hésitez pas à les poser. Nous allons les sélectionner et on fera remonter toutes les questions.
Merci Laurent déjà pour cette introduction. Allez, Olivier Bianconi va prendre la place. C'est en direct, c'est sur Facebook. Regardez, hop là, on va changer. Voilà, Olivier s'installe. Bonjour Olivier, bienvenue sur RCC en direct.
Anto, ça va ?
Très bien, et toi ?
Ça va bien, bon, impeccable. Parfait. Je me suis levé un peu tôt ce matin, j'ai amené les croissants, ça s'est remarqué. Et voilà, donc Laurent a bien justement présenté les choses. Hein. Donc nous sommes dans une période très particulière, à la fois pour le tourisme mondial qui traverse sa crise principale. Il avait traversé d'autres crises pendant son histoire, bien entendu. Je pense notamment à l'après-attentat new-yorkais, où il y avait eu, au niveau du transport aérien, des complications, mais ça n'avait pas vraiment touché la Corse, je dirais. Hein, ça concernait principalement les grandes villes, la sécurité, etc. Aujourd'hui, avec cette question sanitaire, en effet, c'est bien différent. Et ça nous impacte, nous, directement en Corse, dans une île où... nous étions déjà touchés par un tourisme amoindri. On va avoir l'occasion de le développer, notamment sur la saison précédente. Alors, cette crise sanitaire, elle a été l'objet aussi de remise en question. On l'a vu pendant la période de confinement. Donc, tout le monde s'est retrouvé bloqué, un peu hors du temps. Et du coup, on s'est demandé si l'après... confinement allait être l'objet de l'avènement d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. Certains l'ont imaginé, d'autres étaient quand même un peu plus pragmatiques, je dirais, et pessimistes. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qui pourrait se rassembler bien au-delà, c'est certainement un pessimisme, mais pessimisme sans résignation pour autant, hein, parce que sinon on pourrait baisser les bras et abandonner tout. Donc il y a des solutions problématiques que rencontre la Corse. On va se rendre compte à travers ce que l'on va développer que ces problématiques, elles ne concernent pas que l'après finalement confinement ou la question sanitaire et donc toutes les contraintes qui sont liées, mais notamment sur la région de Valagne, on a des problèmes qui sont bien antérieurs, je dirais, hein, à cette période difficile. Et on va pouvoir remonter ainsi tout à l'heure, notamment avec Bernard qui est à mes côtés, on va remonter le temps, puisqu'on va se rendre compte que depuis plus de 20 ans, hein, en Valagne, on a des soucis qui concernent les transports notamment. Et le transport qui est au cœur de toutes les préoccupations pour une éventuelle relance économique, il est vacillant, on va s'en rendre compte, en Valagne notamment, alors qu'ailleurs en Corse, il semblerait être en bien meilleure santé, voire en très bonne santé dans certains secteurs. Donc on va voir tout à l'heure pourquoi, ça va être intéressant, parce qu'on va pouvoir chiffrer aussi, de manière à avoir des données qui soient précises, bien que on s'est rendu compte à travers nos différentes réunions que les chiffres en Corse, c'est quelque chose d'assez relatif, hein. C'est un peu comme avec la police et les syndicats, donc, hein, on a tout son contraire, et puis surtout on peut leur faire dire ce que l'on veut, ça on le sait, hein, c'est pas valable que pour la Corse, mais en Corse on a une spécificité, c'est-à-dire qu'au niveau des chiffres c'est extrêmement compliqué. On en parlera aussi avec Fabien Recasera, qui en plus, revenant d'un confinement espagnol, ah, difficile, le temps, difficile. J'imagine, tu as bien mangé, non?
Oui, oui, pardon, oui.
Et pourra avoir une vision aussi un peu plus générale. On l'a entendu d'ailleurs, Anto, à l'occasion des nombreuses émissions que tu as fait pendant le confinement, Fabien, justement, parler de la situation là-bas. Donc ça va être intéressant aussi d'avoir une ouverture sur la Méditerranée. Jean-Pierre Pinel, il va nous rejoindre tout à l'heure. Et j'ai eu une longue conversation hier avec lui aussi, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir prendre du recul aussi sur justement le tourisme en Méditerranée de façon générale, voire même un petit peu au-delà, on va pouvoir faire quelques comparaisons. C'est important de comparer pour comprendre justement quand les chiffres ne sont pas parlants ou sûrs. Et donc ça va être intéressant. Et puis on va se rendre compte surtout que le tourisme, on le sait, hein, on a eu des chiffres justement pendant le confinement, concernant la Corse, 30% du PIB, en gros, hein, je donne les chiffres en gros, hein, concernerait donc le monde du tourisme, et le rapport induit, c'est-à-dire tout ce qui, en ricochet, va bénéficier justement de cette affluence touristique, ce serait près de 50%. Alors, pour la Valagne, du coup, on peut même se demander si on ne serait pas au-delà de ça, parce que la Balagne, comme l'extrême sud, c'est une région qui, historiquement, je dirais, est attachée en effet à ce phénomène touristique et est très marquée par la saisonnalité, voire ce que l'on craint, l'hypersaisonnalité qui engendre beaucoup de problématiques que l'on pourrait éventuellement résoudre, que l'on essaie de résoudre depuis fort longtemps. Tous ceux qui sont autour de la table et ceux qui nous rejoindront sont coutumiers des réunions. On peut même dire qu'on a la réunionite aiguë, hein, et hélas, je dirais, ces réunions, elles ne sont pas toujours garante de progrès. Il y a eu des progrès, parce qu'on va pas non plus dire qu'il ne se passe rien. Moi, quand j'entends, pendant le confinement, des critiques émises au sujet du tourisme, justement, on pourra parler tout à l'heure du tourisme de masse, mais sans parler de cela même, du tourisme tout court et de ce que les professionnels peuvent en faire, j'entendais justement que le tourisme, en gros, c'est de l'argent facile, que le tourisme, c'est la salade niçoise sur la plage, le tourisme, c'est le Coca-Cola sur le port. Moi, j'ai l'impression, étant d'une famille de commerçants calvais de longue date, ayant grandi avec justement le tourisme en face, que la situation, en tout cas pour ce qui concerne Calvi, qui pourtant est vraiment une station balnéaire pour le coup, hein, comme Porto Vecchio, eh bien, la situation a changé et sous certains aspects peut s'améliorer. Il y a des choses qui se dégradent, il y a des choses qui s'améliorent. Je me souviens de la difficulté il y a 30 ans pour les vacanciers de trouver un restaurant corse à Calvi. Il y en avait, mais il y en avait très très peu. Et ou de la cuisine corse, hein, globalement. Voilà, une spécialité corse, sans aller chercher un restaurant spécialisé. C'est très compliqué. Donc là, pour le coup, on pourrait penser qu'il y a 40 ans, le phénomène de la salade niçoise du pain bagnat, il était non seulement répandu et populaire, et les gens ne se préoccupaient pas vraiment, finalement, de savoir, au-delà de la plage, peut-être de la discothèque à l'époque, il y en avait encore, et du restaurant avec des spécialités internationales plutôt on se préoccupait moins de la culture, justement, de ce dont on va pouvoir parler aujourd'hui, du sport, notamment du monde agricole, de notre culture, de nos traditions, etc., etc. Donc voilà, le tourisme, il a quand même su évoluer en Corse. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour répondre justement à ces défauts. Le tourisme, je le disais dans quelques publications confinées, justement, j'avais le temps d'écrire, c'est un enfant de la mondialisation, hein, mais comme d'ailleurs quasiment tout ce qui nous entoure. Et quand on parle quand on remet en cause, en définitive, le tourisme, c'est la société qui nous entoure qui doit être remise en cause, en commençant par la finance, etc., etc. Et ça, on l'oublie. Donc, on a tendance à stigmatiser encore le tourisme parce qu'on dépend d'une mono-industrie. Et toute mono-industrie occasionne des problématiques, je le disais il y a peu. Si on remplaçait le tourisme par une industrie de confection lourde avec de l'exportation, si on remplaçait le tourisme par une agriculture non raisonnée, massive, productiviste et des exportations, pendant cette période de crise, on aurait des problèmes aussi. Et en dehors de ces périodes de crise, on en aurait eu aussi de la spéculation foncière, immobilière, des disparités de salaires et de conditions sociales entre les cadres et les ouvriers, des saisonniers nécessaires pour les récoltes, en effet, en pleine période, ou pour les pleines périodes de production, notamment les fêtes de Noël, etc. On retrouverait les mêmes problématiques, avec certainement même des problèmes concernant l'environnement qui serait même plus important que ce que l'on a aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de solution idéale pour la Corse. La solution, c'est peut-être, en effet, la diversité. Mais pour arriver à une diversité, c'est pas en claquant des doigts après le confinement qu'on va réussir à transformer Fabien en apiculteur, hein, par exemple, et Bernard en ingénieur sur les énergies renouvelables. Peut-être qu'on va s'y mettre, hein, pourquoi pas, hein, on a de l'ambition, on n'est pas désespéré, mais ça ne s'improvise pas. Donc, il faut faire avec le tourisme, assurément, et peut-être qu'il faut savoir aussi l'accompagner, le réinventer. Donc, on va essayer d'abord de le comprendre, ce tourisme, et de comprendre surtout sa grande diversité, puisque le tourisme, il impacte bien au-delà, en effet, hein, je le disais il y a un instant, des seuls acteurs touristique, je dirais. Ça va chercher jusqu'au monde agricole et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Anto Pierre Acquaviva, donc qui est producteur dans la région de Zilia, entre autres, hein, parce que son territoire s'étend bien au-delà, avec Alziprad, et qui a été également président de la Chambre d'agriculture et qui, du coup, donc a évidemment un regard particulier. Alors Pierre, merci de nous avoir rejoints. Parce qu'on lui a fait une invitation un peu...
Merci à toi.
un peu courte, quoi, hein, je dirais. Donc, il était très réactif. Et alors, d'abord, qu'est-ce que tu penses, justement, de cette polémique, justement, autour du tourisme qui est née pendant la période de confinement? Qu'est-ce que ça t'évoque?
Alors, avant d'aborder ça, je voudrais juste apporter une précision sur ce que je suis, ce que je fais. Donc, de fait, je suis agriculteur, producteur de vin à Zilia. J'ai été un éphémère président de la Chambre régionale d'agriculture, mais je suis depuis 20 ans président des AOP viticoles pour la Corse, donc la gestion d'un signe de qualité, qui est censé apporter de la traçabilité, de la valeur ajoutée, etc. Donc, c'est pas innocent, mais je précise cela parce
que, important.
À mon avis, ça relève de l'équation à résoudre pour la Corse. Le confinement, ben en tant qu'agriculteur, on a déjà sur un plan strictement pratique, on l'a vécu moins durement puisqu'on on pouvait continuer à travailler, on était dans les champs donc c'était moins dur, enfin, dans les vignes plus exactement. Sur l'aspect strictement économique, ben effectivement, on a pris nous aussi un choc avec un arrêt de la commercialisation de nos produits. Alors pas un arrêt total parce que justement là aussi, parce qu'on a la possibilité d'aller chercher nos clients à l'extérieur de l'île. Eh bien, on a continué à avoir une activité pour une part, qui s'est maintenue. Ça n'a pas été flambant, mais une entreprise comme la mienne, c'est à peu près 30% de son activité, entre 30 et 35% qui est fait en dehors de l'île. Et celle-ci n'a pas baissé aussi drastiquement que celle qui était faite sur la Corse. C'était intéressant de voir que il y avait certains pays, même des pays confinés, qui ont continué à importer des produits parce qu'ils avaient des réseaux de distribution adaptés. Voilà. Effectivement, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de tourisme, et donc l'analyse que j'entends.
C'est pour ça que tu es invité d'ailleurs.
Hein. Donc je vais être le naïf là, ou l'innocent entre la table. Là, j'en suis bien conscient. Pour autant. Et comme tu l'as dit précédemment, il est clair que je fais partie des activités qui, par effet peut-être de ruissellement, comme dirait notre président, sont intimement liées à l'activité touristique. Bon, donc le tourisme nous concerne en tant qu'agriculteur, me concerne en tant que viticulteur et nous concerne en tant qu'agriculteur, puisque on est forcément lié évidemment à la restauration, évidemment aux flux qui se font à l'intérieur, puisque souvent les agriculteurs, on n'est pas en bord de mer, mais un peu plus à l'intérieur des terres, des flux qui se font, des tourismes qui cherchent à avoir des pratiques, des comportements un peu plus curieux, j'allais dire. Et donc pour toutes ces raisons, notre activité est intimement liée et connectée au tourisme. Pour autant, dans les propos que tu as dit il y a un instant, effectivement, on voit bien que lorsqu'on est sur une culture économique un peu monolithique, y a de grands dangers. On peut quand même faire le constat que cette crise du corona, elle a touché absolument tout le monde et que je voudrais bien savoir qui est passé à travers, à part Internet et les entreprises de vente en ligne. Sinon, pour les autres, à peu près tout le monde a été impacté. Donc, effectivement, dire qu'on n'est pas armé, faut résister à une crise comme ça, on peut répondre, mais qui l'est? Évidemment. Quoi qu'il en soit, l'idée quand même, c'est de se dire que notre tourisme est confronté à un certain nombre de difficultés, que effectivement notre analyse qui doit porter sur au sein du tourisme insulaire qui connaît un certain nombre de questionnements, enfin pour lequel il y a un certain nombre de questionnements, le tourisme balanin semble être un peu en situation de faiblesse, de déprise. On le constate tous. On voit bien que notre destination est moins attractive que ce qu'elle était il y a peut-être une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Il y a des raisons objectives à cela. On a tous des propos de café du commerce pour réfléchir à tout ça. Effectivement, il est intéressant aujourd'hui que des acteurs très 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 concernés commencent à structurer des propositions pour travailler, pour imaginer des partenariats avec les acteurs du privé, bien sûr, et les décideurs publics, pour essayer, j'allais dire, un peu d'inverser la tendance. L'exemple du transport est assez criant, notamment de l'aéroport de Calvi, qui est le seul aéroport de Corse qui ne connaît pas la croissance que l'on connaît sur les autres. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour de la question. Moi, au moment du débat, peut-être j'irai plus spécifiquement sur ce que je connais bien, c'est-à-dire la production agricole,
c'est ça.
Et j'allais dire en particulier le vin. Mais bon, au gré du débat ou des questions.
J'ai une idée justement de l'impact de l'activité touristique, de la fréquentation touristique sur tes ventes, l'écoulement de tes stocks.
C'est très difficile à évaluer parce que moi, je vends à des restaurateurs qui eux-mêmes vendent aux touristes, mais je vends aussi à des acteurs locaux, à des Corses, à des particuliers qui eux-mêmes tirent leurs revenus pour en partie du tourisme. Donc, si demain le tourisme baisse, il y a aussi mes acheteurs locaux qui vont probablement diminuer leurs achats. On reste quand même, nous, on a la chance d'être une production locale qui fonctionne bien aujourd'hui. On a des relais, des prescripteurs qui sont les restaurateurs, les commerçants, qui jouent très bien le jeu parce que ils voient bien l'intérêt qu'ils ont à mettre en évidence une production, en avant une production locale qui intéresse leur clients. Et donc c'est vrai que on est très connecté à cet univers-là et qu'on est très dépendant de ce qui se passe dans le tourisme. Voilà, avec la petite nuance que j'ai énoncée tout à l'heure, qui est à savoir que nous réussissons aujourd'hui et de plus en plus pour la viticulture corse à faire une part de notre activité à l'extérieur de l'île,
à
l'exportation. Alors, c'est l'exportation soit en France continentale, c'est pas de l'exportation, mais enfin, ça s'y apparente un petit peu.
On sort en tout cas des frontières naturelles de l'île, au moins.
C'est ça, et soit de l'exportation au sens littéral du terme, donc changer de pays. Donc, c'est vrai que cette situation-là, pour nous, en tous les cas, pour un produit qui est relativement facile à transporter, puisque c'est un produit stable, conditionné, finalisé, c'est beaucoup plus compliqué d'exporter des légumes, des fruits ou des légumes, par exemple, ça se fait, certaines spéculations le font, mais c'est quand même plus compliqué. Et pour nous, ce produit a des caractéristiques en matière de logistique qui permettent d'aller vers des destinations plus lointaines ou plus complexes. Donc, c'est un avantage qui est le nôtre aujourd'hui. On a été pendant très longtemps presque exclusivement sur le marché corse. L'émergence de la viticulture insulaire, son développement, sa capacité à se projeter, à faire des événements même très lointains, d'animation même lointains, nous met dans une position aujourd'hui où effectivement cette part faite en dehors de l'île est grandissante.
Quel est le rapport actuellement entre les deux ?
Alors aujourd'hui, majoritairement, les volumes produits sur l'île majoritairement ne sont pas consommés sur l'île. Alors bien sûr, il faut apporter des nuances dans cela. Il y a pour schématiser la viticulture insulaire, il y a ce qui est issu de la coopération, peut-être de grosses structures qui réunissent des coopérateurs, qui transforment, qui produisent et qui eux ont une capacité à se projeter dans la grande distribution nationale et à l'international. Et donc ils font la majorité de leur activité à l'extérieur de l'île, une grande majorité. Et puis il y a ce qu'on appelle les caves particulières, donc les producteurs individuels qui eux sont traditionnellement plus ancrés sur le marché local, parce que ils ont ce vecteur, je l'ai dit parlé tout à l'heure, de la restauration, des commerces locaux, etc., qui vont les mettre en avant. Mais pour autant, qui commencent, je vous ai annoncé le chiffre, par exemple, dans mon cas précis, d'une trentaine de pourcents, qui commencent à sortir quand même une part non négligeable du marché local.
Et pour ce qui est de la distribution locale, est-ce que, si tu n'as pas de chiffre précis par rapport au tourisme, j'entends, est-ce que tu dois avoir une idée, certainement, je dirais, de ce que tu vas pouvoir écouler pendant la période saisonnière, en tout cas?
Bien sûr. Mais grosso modo, c'est 30% qui sort du marché local, et sur les 70 qui restent, la majorité est vendue durant la période saisonnière. Nous, notre plus gros mois d'activité, c'est avril. Donc la mise en place de la saison, en fait, le démarrage de la saison, c'est là que le chiffre d'affaires le plus important est réalisé. Mai, juin, et puis après le 30 juillet, en août, ça commence à baisser. Ça commence à baisser parce que justement, on a rempli tous les tuyaux de distribution sont pleins et qu'on va vers la fin de la saison. Voilà. Donc l'enjeu est considérable pour nous, même si la diversification de nos réseaux d'écoulement est une préoccupation que nous avons depuis longtemps.
Alors j'ai observé que tu t'es soucié aussi ces dernières années de recevoir au-delà des dégustations pour faire découvrir ton exploitation, justement. Oui. Il y a même des mélanges qui se sont faits entre la culture, concerts, etc. Oui. Ça, c'est un volet, je dirais, un peu marginal par rapport à l'essentiel de tes activités, mais quelque chose qui est important pour toi.
À mon sens, le tourisme en Corse doit mener un virage pour une part de son activité, en tout cas une offre nouvelle un peu, c'est que on doit avoir une offre j'allais dire plus qui offre plus de sens aux visiteurs. Lorsque un visiteur m'achète une bouteille de vin, très bien, il a fait fonctionner l'acte économique est réalisé. Néanmoins, s'il a compris comment est constitué ce vin, de quel terroir il provient, quel a été l'itinéraire technique de sa réalisation, la motivation du producteur, etc., ce produit prend une valeur différente. Alors, elle est pour une part économique, c'est certain, mais elle est aussi pour une grande part culturelle. Et tout d'un coup, le visiteur qui devient un visiteur éclairé, instruit sur un processus de fabrication, sur une connexion à un lieu, à un territoire, trouve une attractivité nouvelle au produit et au lieu. Ça veut dire qu'on va le pérenniser plus facilement. On va aussi, lui ayant expliqué comment on produit, lui faire comprendre la valeur économique d'un produit. Et en plus, je pense sincèrement qu'en tant qu'acteur agricole, mais aussi d'accueil touristique, on va prendre plus de plaisir dans une démarche qui est une démarche de fond, de partage, d'échange, d'enrichissement mutuel, et générer par là même un tourisme plus intéressant, un tourisme plus de fond et qui va apporter une démarche de sens. Il me semble que sur ce terrain-là, la Corse a des atouts à faire valoir qui sont assez considérables, puisqu'on revendique tous notre identité, notre ancrage dans un territoire, la force de nos paysages, mais aussi la qualité de nos productions. Pour aussi amener un élément un peu tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, en matière de diversification d'économie, moi je reste intimement convaincu que après le tourisme, le deuxième poste qu'on devrait devoir se développer, lorsqu'on fait un peu un état des lieux aujourd'hui de la production insulaire de tout azimut, c'est, à mon avis, l'agroalimentaire. J'en suis assez intimement convaincu. Je pense que la Corse a une carte à jouer là-dessus. Aujourd'hui, je pense que la viticulture corse est le premier poste à l'exportation de l'économie insulaire. Mais on voit bien que sur d'autres productions, il y a des cartes à jouer qui sont une évidence. On commence à le faire doucement. Il y a quand même des choses très importantes à réaliser encore. Et pour pouvoir progresser, pouvoir amplifier, mais j'allais dire, eu égard à nos atouts, mais aussi à nos limites, à nos difficultés, à mon sens, l'agroalimentaire en Corse représenterait une vraie capacité de diversification de l'économie insulaire.
En cela, il y a la volonté de se diriger aussi vers le bio, probablement. Je pense au maraîchage bio qui est de plus en plus dynamique.
Pas que maraîchage, toutes les productions agroalimentaires.
Et dans le vin aussi.
Dans le vin aussi, ben, on est 12 producteurs à Calvi. À ma connaissance, il y en a 11 qui sont en conversion, déjà en bio ou en conversion, et un 12e qui est en train d'avoir sa réflexion pour le mener. Donc, on va peut-être être la première appellation de France 100% bio. Donc, ce virage-là, il est pris en grande partie par la production insulaire, mais à l'évidence, c'est un virage à prendre. On ne peut plus se permettre de le délaisser. On voit bien les réflexions qui se mènent, les débats qui ont lieu là-dessus, la préoccupation des consommateurs. D'une part des consommateurs, faut pas non plus rendre... penser que tout est axé là-dessus, mais d'une part nous toujours en progression de l'attente des consommateurs, donc on doit répondre à ces attentes-là. Mais j'allais dire, c'est une réflexion globale. La production de masse en Corse, tu l'as évoqué tout à l'heure, elle a quasiment pas sa place, elle existe pour une part très marginale. Par contre, une production de qualité, identitaire, avec une valeur ajoutée importante sur de nombreux acteurs de petites structures, à mon sens c'est un chemin qui est déjà pour une partie engagée, mais qu'il va falloir amplifier.
Très bien. Alors on va parler maintenant avec Fabien un petit peu d'un autre volet du tourisme. Avec Pierre, on pourra revenir. D'ailleurs, tu peux rebondir à tout instant. L'idée, c'est aussi un débat. je vous l'anime un petit peu de façon improvisée.
Très bien d'ailleurs.
Voilà, l'idée c'est de se donner quand même un aperçu de ce Cambalagne en l'occurrence, donc et qui est connu quand même pour son balnéaire et aussi pour sa montagne. On parlait tout à l'heure un petit peu du GR20. Le tourisme s'est en effet développé ces dernières années, bien au-delà de ces seules plages et crêtes montagneuses, et on s'en rend compte à travers notamment donc aussi le bénéfice que peut en tirer donc les productions agricoles et l'orientation qui est prise aussi là-dedans. Est-ce que Fabien, dans le tourisme de loisirs, de découvertes, celui des prestations de loisirs touristiques, même si le terme semble un peu, je dirais, un petit peu simple dans la mesure où il ne prend pas en compte justement la notion de découverte, d'enrichissement, d'échange, etc. Donc on reste sur du loisir, on a l'impression que c'est une bouée tractée. En vérité, ça va un peu plus loin que ça. Alors on va juste rappeler, Fabien, donc toi tu as une activité sur le port de Calvi.
C'est ça, et sur Galerie. Hein.
Et sur Galerie également, depuis combien d'années ?
25 ans maintenant.
25 ans. Et à la fois, donc, tu fais de la location de bateaux, de quads, de véhicules adaptés au territoire, de scooters, etc., etc. Mais aussi, tu as une activité nautique qui est d'ailleurs la principale, je dirais. Hein. C'est un peu le cœur de ton activité, de ta passion d'ailleurs pour ce que tu fais. Et donc, elle se décline comment ?
Alors, en fait, il y a 25 ans, quand on s'est créé, déjà, je me suis créé par choix, c'est pas un héritage, le tourisme dans ma génération, j'ai 52 ans maintenant, c'est décidé, c'est un choix volontaire, parce qu'on avait envie de rencontrer, on avait envie de partager notre île avec d'autres personnes. Donc on a démarré nos activités sur effectivement des activités locatives qui, comme le disait Pierre, qui s'apparenterait à une vente de bouteilles de vin, n'ont pas un grand intérêt puisqu'un client souhaite un bien locatif, va ensuite partir sur une journée découverte qu'il va faire tout seul en 4x4, en bateau, en scooter. Et très rapidement, j'ai souhaité réorienter les activités de mon entreprise sur du tourisme guidé à valeur ajoutée, c'est-à-dire que l'on puisse, nous, être acteurs du développement de notre île en proposant des activités complètement différentes, en amenant les gens en bateau à la découverte de sites comme Scandola, comme la Grillade, comme à Punta Reverata, en amenant les gens en quad à la découverte de sites comme la forêt de la Flatte, comme les petites routes de Zilia, comme le Madonna di Assar. Donc différents sites en Corse sur lesquels on amène les touristes de manière à pouvoir donner un contenu véritablement, car la prestation guidée nous permet de nous raconter notre histoire, nous permet de nous marier avec d'autres acteurs du tourisme, c'est-à-dire nous arrêter chez un agriculteur pour faire goûter ses produits, entrer dans une église pour expliquer notre approche de la religion catholique, etc. Donc en fait, on a réussi en 20 ans à transformer un petit peu nos activités d'une consommation simple et d'un achat touristique qui n'avait pas véritablement d'intérêt. On a réussi aujourd'hui à construire des prestations qui ont du contenu et qui ont du sens. Donc ce sont des promenades en bateau guidé, des promenades en quad guidé, des promenades en 4x4, des mariages avec toi, souvent sur des entreprises. On a développé au cours des 25 dernières années ce que l'on appelle le tourisme d'affaires, qui est un tourisme absolument passionnant, puisque ce sont des entreprises qui viennent en général sur le hors-saison, sur des petits séminaires d'entreprises qui restent en général 3-4 jours sur un site et qui souhaitent véritablement s'imprégner d'une culture et repartir avec une réelle connaissance du territoire qu'ils ont visité. Donc ils vont vouloir découvrir notre aspect culturel, artistique, les champs par exemple, ils vont goûter notre gastronomie, ils veulent rencontrer des gens, rencontrer des acteurs du tourisme ou des habitants. Donc véritablement on se rend compte que le tourisme peut se réorienter si on le veut bien et si on le souhaite, et on peut partir de ce qu'on appelle un tourisme de masse que l'on a connu il y a 25 ans quand j'étais un petit peu plus jeune, où on avait l'habitude de dire que les gens venaient nous visiter en Corse en juillet-août en mangeant une tomate sur la plage, puisque c'était le seul intérêt qu'ils trouvaient à la Corse, dans un tourisme qui était orienté au travers des villages de vacances et des campings. C'était le cas véritablement il y a 25 ans. Depuis, des acteurs touristiques sont nés, je l'ai dit, par volonté, et ont pu réorienter un petit peu cela en créant quelque chose d'absolument extraordinaire. dans les 25 dernières années, on a réussi à créer un tourisme hors saison où on a commencé à ouvrir début avril et fermer ensuite en novembre. Donc, on a pu réorienter le tourisme, c'est vachement intéressant. Et en plus, on est sur des proportions du tourisme qui restent quand même raisonnables. On parle beaucoup de surfréquentation, de tourisme de masse. C'est un débat intéressant qu'ont toutes les destinations touristiques du monde. Mais on est bien loin du tourisme de Venise, des îles Baléares ou de notre voisine la Sardaigne, qui est beaucoup plus visitée que la Corse. Donc il est encore temps en Corse d'agir et de proposer une offre qui puisse être peut-être plus durable, plus écologique, plus bio, plus culturelle. Il y a plein d'orientations à prendre. On est bien loin du point de non-retour que parfois les médias veulent bien nous faire croire.
Alors du coup, on voit bien quand même qu'il y a, parce que l'aventure finalement, Pierre, du renouveau de la vigne en Corse, justement, elle a commencé il y a combien d'années ? Combien de décennies ?
Elle part de loin. Elle a succédé, je dirais, à la période très difficile qui a été celle des années de crise, les années 70, ouais. Début des années 80. Et à partir de là, se sont mis en place les outils d'une reconstruction du vignoble corse. Donc une interprofession, des outils publics aussi de financement de la restructuration du vignoble, la réorientation de celui-ci, la mise en place des signes de qualité avec les AOP. Et tout ça, ça a abouti à une montée en charge d'une filière qui aujourd'hui représente à peu près 350 acteurs, 350 entreprises, qui sont vendus des vins qui sont vendus, voilà, on l'a dit tout à l'heure, sur le marché local, mais aussi à l'extérieur.
D'accord. Mais donc on peut considérer que ça a pris quoi, une quarantaine d'années à peu près, en gros?
Oui, une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Nous sommes aujourd'hui, sachant que ça n'est pas un point abouti, je dirais, ouais. Qu'on reste
en perpétuelle évolution. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça démarre à peu près donc une quarantaine d'années avec donc une montée en puissance et une orientation précise et les résultats que l'on connaît. Donc du coup, là, on parle de 25 ans en arrière, en effet, en quittant un tourisme vraiment massif, celui dont je parlais tout à l'heure, qui était essentiellement balnéaire, quelques crêtes de montagne, encore, c'était vraiment les balbutiements. Là, la fameuse salade niçoise et le croque-monsieur. Et là aussi, on voit que le tourisme, parallèlement, lui aussi, hein, suivi un chemin, se professionnalise, se réoriente, se diversifie. Donc voilà, le tourisme aussi connaît une évolution qui est intéressante. Alors, tu parlais des chiffres justement tout à l'heure. Ils sont, du moins des comparatifs que l'on va chiffrer avec notamment Venise. Ils sont éloquents, hein, sur Venise, où là, on peut vraiment définir qu'il s'agit d'un tourisme massif, un tourisme de masse, assez prédateur, hein, même très prédateur pour la cité. Avec les problèmes que l'on connaît. Venise, c'est 27 millions de touristes par an. Pour la Corse, on est entre 3 et 4 millions. Alors, on va faire aussi un comparatif en matière de superficie. Venise, si on prend la ville de Venise, la terre ferme et l'archipel, et qu'on rassemble tout cela, on a environ 160 kilomètres. La Corse, évidemment, on va me dire, oui, mais il y a la montagne en Corse. Mais sur la montagne, il y a quand même le GR. Et le GR, c'est justement du tourisme massif. Alors, si on ne veut pas dire de masse, ça veut dire qu'il y a, à un moment donné, une concentration sur un temps donné. Bon, là, les contraintes, évidemment, de fréquentation, notamment au niveau météorologique, l'imposent peut-être. Mais sur la Corse, on a plus de 8700 km². Hein, 160 du côté de Venise, 8700 pour la Corse. Donc on a quand même un territoire qui est extrêmement vaste et on est donc entre 3 et 4 millions selon la police ou les syndicats et pour la Corse, 27 millions pour Venise en effet. Donc le tourisme de la Corse correspond souvent au tourisme que l'on peut retrouver sur certaines villes de France, de petites villes touristiques de France, hein, qui vont recevoir autant de population que la Corse tout entière. C'est assez extraordinaire.
Hein. Alors là, en titre de comparaison, si on prend les autres îles, parce qu'il est bon de se comparer aux autres îles voisines méditerranéennes, les Baléares ont un territoire de la moitié de la Corse et reçoivent 15 millions de touristes par an sur 3500 km² et nous effectivement on a 9000 km². Effectivement les Baléares peuvent parler d'une pression touristique qui est importante parce qu'en plus elle est saisonnière. Les Baléares dépendent à 80% du tourisme, le PIB des Baléares du tourisme est à 80%, et les Baléares, depuis 5 ans, justement, travaillent et réussissent à réorienter la destination touristique, qui était un tourisme de masse. Alors le tourisme de masse, ça veut dire une forte concentration à bas prix, avec à l'époque l'apparition des low cost, etc., donc des barres d'immeubles construites sur la plage. Depuis 5 ans, les Baléares font marche arrière sur ce créneau-là, et réussissent à créer un tourisme identitaire, donc plus étalé sur la saison. Ils ont complètement bloqué les constructions sur la bande littorale, ils interdisent les locations Airbnb dans tous les centres-villes des îles des Baléares, de manière à disperser les touristes sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a encore des endroits vierges aux Baléares. Donc ils arrivent avec 15 millions de touristes à faire plus qu'une marche arrière, c'est un virage à 360 degrés, entre un tourisme de masse, destructeur, etc., et un tourisme culturel et identitaire. Ils arrivent aussi, on parlait des effets bénéfiques du tourisme, parce qu'il y en a, puisque le tourisme crée des richesses, et donc ils se servent de l'argent du tourisme pour créer des petites industries. La marque de chaussures Campers, que tout le monde connaît, qui sont des chaussures espagnoles, sont nées et fabriquées aux Baléares. Donc les Baléares se servent maintenant du tourisme, d'une part pour le réorienter vers quelque chose de plus acceptable et agréable pour les populations. Les Baléares sont peuplés d'un million de personnes, hein, sur un territoire deux fois plus petit que la Corse. Mais en plus, ils se servent de cet argent-là pour, effectivement, créer de nouvelles activités. En Corse, donc, tu le comparais à Venise, je compare aux Baléares, on est encore sur un seuil véritablement acceptable. On est loin du point de non-retour, véritablement, et particulièrement cette période de Covid, qui va marquer un frein à l'économie touristique européenne, pas seulement Corse, avec effectivement un point zéro. On va devoir redémarrer un petit peu à partir de 2020 le tourisme. Il y aura beaucoup moins d'avions cette année. L'aérien ne redémarrera à son niveau normal qu'à partir de 2023. C'est ce que donne la IATA, ce qui est l'Organisation Mondiale de l'Aviation. Donc on a 3 ans où on va tous tourner un petit peu sur un ralenti en termes de fréquentation touristique. Il est largement temps en Corse de réfléchir à quelque chose qui nous satisfasse tous, en termes économiques, en termes sociaux, en termes de qualité de vie. On est loin de Venise, Olivier, tu as raison. Oui.
Alors si le tourisme de masse n'existe pas en Corse, on pourrait le dire, hein, vu des chiffres, on peut estimer qu'il n'y a pas de tourisme de masse en Corse. Alors évidemment, il y en a qui vont monter au créneau et on voit les cheveux qui vont se dresser sur la tête quand je dirais ça. Mais c'est une réalité, il n'y a pas de tourisme de masse en Corse. En vérité, il y a une mauvaise gestion simplement des flux, probablement. Et elle est évidemment intimement liée à la fréquentation estivale qui, elle-même, est la résultante, je dirais, des vacances scolaires. Alors j'ai des chiffres qui sont assez éloquents, parce que le tourisme a connu en un siècle une explosion considérable, hein, au niveau mondial. Hein. Alors absolument considérable, c'est pour devenir d'ailleurs une des industries, peut-être l'industrie principale, je dirais, à l'international. Et pour autant, on n'a pas eu d'aménagement, d'accompagnement finalement justement de ce tourisme, en tout cas pas sur la période d'été. On reçoit en France, en Corse, environ 73% de population française, donc continentale, et après il y a la population étrangère en effet qui se développe. Alors selon les établissements, en effet, c'est très disparate. Hier, je parlais avec Jean-Pierre Pignelli, qu'on va recevoir tout à l'heure. Il me disait que lui, il a la moitié quasiment de ses clients qui sont justement à l'international. Mais globalement, pour la Corse, c'est environ 73% donc de clientèle française. Les congés d'été, donc après, évidemment, la promulgation de ces fameux congés, donc nous sommes dans les années 30, eh bien, sont donnés en 1938 avec une période qui va du 15 juillet au 30 septembre. C'est-à-dire que là, on courait jusqu'à la fin du mois de septembre. En 1960, nous sommes du 26 juin au 16 septembre. On est encore sur quasiment 3 mois. Ensuite, donc on arrive évidemment donc en 2019, l'an dernier, on est du 4 juillet au 2 septembre. Donc on resserre vraiment sur la période juillet-août. Et là où on a réussi finalement, sur d'autres vacances, notamment sur les vacances d'avril, à étaler par zone, avec 3 zones justement, des congés qui vont se prendre finalement quasiment depuis le début du mois d'avril jusqu'au début du mois de mai, On a été incapable, je dirais, sur ces congés d'été, de les étaler. Alors évidemment, ça demanderait des réformes en amont qui sont lourdes, bien entendu, mais c'est la raison principale, certainement, de la fréquentation des sites. Il y a celle-ci, et il y a aussi un problème d'attractivité, de diversification, justement, de ce que l'on propose aux vacanciers, qui fait qu'ils vont se rassembler finalement massivement, du coup, en des périodes relativement courtes et en des points très précis. Ainsi, on va assister pendant des périodes courtes à une surfréquentation, une fréquentation en tout cas qui va sembler massive, je dirais, hein, qui va en commander quelques-uns sur Scandola, là, d'où notamment les polémiques qu'il peut y avoir autour de ça. On va pouvoir y revenir avec toi dans un instant, et notamment autour de la fameuse perte du diplôme européen, qui finalement, là, on l'a vu dans la presse ces derniers jours,
qui
a réagi, pourrait revenir, etc. En tout cas, bon, il y a une impression de masse et une impression qui est palpable. Alors, je parle pas forcément de Scandola là pour ne pas y être régulièrement, mais je suis plus régulièrement dans les calanques de Pierre. Donc là, la problématique, elle n'est pas sur la mer, mais sur terre aussi, avec les bus, etc. Moi-même, j'ai une compagnie d'excursion, même si elle est moins visible parce que ce sont des petits véhicules, on est quand même aussi présent. Et donc, on participe évidemment à l'afflux de population. D'autres sites comme la plage de Salé, dans la Griatte, où là, par contre, derrière, il y a eu quand même des mesures prises par le conservatoire ces dernières années pour essayer de tempérer un peu, en tout cas au niveau de la fréquentation des véhicules motorisés. Sur les bateaux, pour l'instant, le mouillage, il n'est pas encore organisé, donc là-dessus, il y a du travail à faire, assurément. Il y a d'autres sites, bien entendu. On parlait du GR20, qui, à sa façon, lui aussi, va concentrer les populations sur les crêtes pendant une période courte, si bien que les gens qui arrivent au moment de fréquentation maximale ont l'impression qu'ils sont vraiment en surfréquentation. Ce n'est pas forcément toujours évident. Il y a beaucoup de sites en Corse, comme ceux-là, qui attirent beaucoup de monde, mais il faut pas oublier que le tourisme de masse, c'est un tourisme aussi parfois culturel. Par exemple, le Louvre, c'est du tourisme de masse aussi, par exemple. Hein. On s'en rend moins compte qu'évidemment, sur les plages peut-être de Copacabana ou de la République dominicaine, mais c'est le cas aussi. Alors en Corse, en effet, on a ce phénomène, Fabien, qui est problématique.
Alors c'est normal, on est déjà très peu peuplé. Ouais. Contrairement à nos voisins, justement, aux autres îles, on n'est que 330 000. Donc on vit, on ne le sait peut-être pas tous, mais dans un véritable désert. On a une faible densité, une des plus faibles des îles de Méditerranée, de population. Donc on passe de rien à tout, et tout c'est pendant 20 jours. Véritablement, parce que je rajoute au phénomène des congés payés, au raccourcissement des vacances, l'habitude française d'une économie à l'arrêt du 1er au 21 août, la plupart des entreprises ferment véritablement. Paris est complètement déserté en termes économiques, puisque les entreprises se servent de ces 3 semaines à l'arrêt pour donner le plus possible de congés à leurs salariés. Les cadres aussi sont en vacances, on le sait, et les chefs d'entreprise aussi prennent leurs vacances à ces moments-là. Donc on n'est même plus sur une saison de 2 mois, on est sur une saison de 21 jours, puisque la France a, dans les 10 dernières années, pris cette nouvelle habitude de fermeture pure et simple de son industrie et de son économie entre le 1er et le 21 août. Donc effectivement, on passe de 330 000 habitants, c'est-à-dire rien, à un début de saison avec une très faible fréquentation touristique. Un mois de juillet qui, quand on sort à Calvi, le Calvi on the Rock, c'est un mois véritablement aussi avec peu de touristes, ou du moins une impression d'un tourisme agréable, parce qu'il est dilué, il est calme, il est doux. Et on arrive soudainement dans les 20 jours du mois d'août, où la Corse entière parle de surfréquentation. Sommes-nous réellement surfréquentés, ou est-ce une impression, parce qu'on passe de personne à effectivement du monde, des embouteillages, une attente de 5 minutes pour le restaurant, etc. Donc on a véritablement cette sensation et ce ras-le-bol qui en découle, qui peut aussi concerner les professionnels du tourisme, parce qu'effectivement, nous devons être dimensionnés pour 3 semaines de fréquentation touristique et pour 6 mois de désertification touristique, puisque les mois d'avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, effectivement, nous ne sommes jamais pleins en Corse. Donc il faut se méfier entre la sensation et la réalité. On a effectivement 20 jours de forte fréquentation et 6 mois de faible fréquentation.
Donc, défaut de répartition des masses touristiques, assurément, Pierre. Je pense notamment à toutes ces régions qui ne connaissent pas justement cette fréquentation, qui pourraient peut-être, pour certains, y trouver un intérêt. L'agrotourisme, notamment, ça existe. Je pense aux régions de Castagny, Tchadugnol, ou notamment, par exemple. À ton niveau, justement, dans le bassin de Dzil, il y a Calenzana, qui est quand même un bassin fréquenté au niveau touristique. Cette sensation, comment tu perçois justement le développement touristique rural, l'intérêt justement que peuvent avoir ces clientèles, cet intérêt croissant néanmoins pour l'arrière-pays? Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de développer cela, peut-être d'aller chercher des régions qui elles ne connaissent pas cette fréquentation?
Alors, moi, le constat que je fais, c'est que effectivement, on a des atouts. Il y a d'autres micro-régions de l'île qui ont des atouts assez exceptionnels et qui restent étonnamment sous-équipées et sous-fréquentées. En Balagne, on a bien vu, ça a été un point positif, c'est que ces dernières années, les tourismes, on a vu toute une part du tourisme qui est devenue un peu plus, j'allais dire, plus intelligente ou plus curieuse, plus curieuse de comprendre le fonctionnement du territoire. Et donc moi ma problématique relève de cela, c'est que on voit arriver aujourd'hui sur les lieux de production des flux qui sont plus importants qu'auparavant, avec des visiteurs qui sont friands de comprendre comment on arrive à produire, à tirer ce que l'on tire de la terre. Donc ça, c'est une évolution qui est plutôt, je veux dire, naturelle, c'est une évolution de fond. À nous d'avoir une offre suffisante, suffisamment structurée, suffisamment attractive pour la nourrir et pour l'amplifier. À l'évidence, on sait tous que la Corse a des atouts assez exceptionnels en matière environnementale, en matière de culture, d'histoire, etc. Moi, il m'a toujours apparu comme une hérésie de voir la seule vallée d'altitude aménageable en Corse qu'est le Nioulou aussi sous-équipée en matière de tourisme. Moi-même, en tant qu'insulaire, j'aurais très envie de monter me passer une semaine à la montagne en été au Nioulou. Allez-vous loger au Nioulou, vous allez voir que c'est compliqué. Ou allez-vous passer une semaine en hiver quand il y a un peu de neige, c'est toujours très difficile. Bon. Ça me paraît être une hérésie. Moi qui suis amateur de montagne, lorsque je vais dans les Alpes ou dans les Pyrénées, je vois des infrastructures, des capacités d'accueil que je ne vois pas en Corse. Or, ça me paraît. Je fais toujours un constat très étonné de la situation parce que, à l'évidence, on a un public, à commencer par un public même local, puisqu'il y a des gens, les locaux qui auraient bien envie d'aller se promener un peu de temps en temps et de couper. On commence à voir un tourisme insulaire. D'ailleurs, on voit les gens d'Ajaccio qui viennent en arrière-saison, en avant-saison, se promener en Balagne. Bon, ben ça, il faudrait arriver à l'amplifier sur certaines zones. On parle de la Castagnie, sa richesse, ses villages, etc. Bon, aujourd'hui, très clairement, ces nombre de régions insulaires sont désertées, sous-équipées. Alors, il y manque peut-être la matière principale. On l'a dit tout à l'heure, c'est des hommes. La Corse, elle est clairement avec une population, enfin, sous-habitée, j'allais dire, avec une population qui est faible, à 330 000 habitants. On connaît aussi la courbe démographique, les forces vives, souvent, elles quittent l'île pour aller travailler. Et donc, le constat, c'est un peu celui d'un train qu'on n'arrive pas à faire démarrer. Bon, voilà. Il y a les éléments de base essentiels qui sont là. Hein, quand même, c'est de sacrés atouts par rapport à d'autres régions. Comment arriver à faire démarrer une dynamique qui va effectivement permettre et d'étaler la saison et de décréter ce fameux pic en termes de fréquentation sur des sites, d'éviter que des sites ne soient en surfréquentation quand d'autres sont délaissés alors qu'ils ont aussi une grande capacité d'un grand intérêt, je dirais. Donc voilà, ça c'est une question que l'on peut se poser. Faire le constat, ça n'est pas forcément amener des solutions. À l'évidence, c'est tous les acteurs qui doivent se mettre autour de la table. Bien sûr, les acteurs locaux, les acteurs des micro-régions concernées, les acteurs du tourisme, les acteurs, les décideurs publics, et tous. On doit aussi balayer un peu dans notre porte en voyant ce qu'on n'a pas fait ces dernières années ou ce qu'on a pas un peu par facilité, parce que pendant très longtemps on a été un peu des cueilleurs. Le tourisme, ben, il fonctionnait, les flux arrivaient en Corse et on a développé un tourisme qui manque aujourd'hui, qui a manqué pendant longtemps probablement de technicité. De capacité en matière d'innovation, de projection. Et aujourd'hui, la Balagne, force est de constater que on voit bien qu'on est dans une dynamique négative, je dirais, avec une défréquentation en baisse, un tourisme peut-être moins qualitatif qu'il y a un certain nombre d'années. Voilà, comment se mobilise-t-on là-dessus ? Effectivement, pour revenir à l'origine de ta question, je pense que le territoire, avec toute sa profondeur dans tous les sens du terme, géographiquement, mais aussi pour, en matière de d'offres, est probablement un des éléments qui permettrait de répondre au constat que nous faisons.
Ouais, voilà. Alors, j'avais une dernière question à te poser. C'est le rapport justement qu'il peut y avoir entre un peu ambivalent de faux amis, peut-être, entre le monde agricole justement et le tourisme. Parce qu'on sait que le tourisme va, par ses effets négatifs justement, avoir une influence sur notamment la montée des prix dans l'immobilier, dans le foncier par exemple, hein, avec la spéculation que l'on connaît. Et à côté de ça, donc on en a parlé, il a aussi de bonnes répercussions avec notamment justement tout l'intérêt que peuvent porter pour les productions locales et un intérêt croissant justement, donc tous ces vacanciers, on parle du vin avec toi, mais on pourrait parler de la charcuterie, on pourrait parler des miels, etc. On pourrait parler des pêcheurs sur le port de Calvi, avec les restaurants, etc. etc. Comment tu envisages ça ? Parce que de temps en temps, là aussi, ça part un peu en polémique. Est-ce que tu penses que qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé ou que résolument, le tourisme tel qu'on l'a envisagé jusqu'alors en Corse engendre plus de problèmes, je dirais, que d'atouts ?
Pardon. D'abord, c'est pas un problème strictement en Corse. Partout, en France, en Europe, il y a une concurrence pour l'accès au foncier. Et très clairement, les agriculteurs qui, pour des raisons strictement économiques, ne peuvent pas payer le foncier.
Ah, il faut que tu parles plus près du micro, je
pardon.
Crois.
Ouais. Pardon. Donc, je disais, il y a une concurrence très, 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 très importante entre les différents opérateurs et différents secteurs d'activité pour l'accès au foncier. Les agriculteurs, il y a un constat de base à faire, c'est que les agriculteurs ne peuvent pas payer la terre très chère. Vous prenez un berger qui a besoin de foncier important, mais la valeur ajoutée par son exploitation ne permet pas de payer la terre à un prix élevé. Donc très clairement, par rapport à l'utilisation qui peut en être faite sur de l'immobilier, ou que ce soit à l'égard de structures touristiques ou tout simplement de gens qui veulent acquérir des résidences secondaires, etc., il y a une concurrence qui se fait dans laquelle l'agriculteur sort quasiment toujours perdant. Bon, ça c'est un constat qui est posé. Les outils de régulation de ce genre de choses, on les connaît, ils existent. C'est l'intervention de la SAFER qui flèche les terres d'abord en priorité vers les agriculteurs, dans la mesure où elle a les moyens d'exercer ses missions, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'autre outil pour gérer cela, c'est l'établissement du PADUC qui détermine la vocation des terres. Et qui les rend et pour lesquels il est convenu que pendant 30 ans cette vocation ne pourra pas être modifiée. Donc si un propriétaire sait que sa terre est vouée à une utilisation agricole, ben il arrête de spéculer sur la valeur ajoutée qu'il pourrait faire en la cédant ou en faisant un projet, puisque de toute façon pendant 30 ans il sait que cette vocation est établie et ne pourra pas être modifiée. Donc c'est une des réponses que le législateur a apportées. Vous savez tous les difficultés qu'a le PADUC de Corse à s'installer et à fonctionner. À terme, quand même, c'est l'espoir qui est le nôtre, c'est celui-là, c'est de sanctuariser les terres agricoles, parce que si on laisse faire cette concurrence, l'agriculteur sort quasi toujours perdant. On sait tous que l'attractivité du territoire sera d'autant plus importante qu'il y aura d'autres acteurs que ceux du tourisme, notamment des agriculteurs, parce qu'ils maillent le territoire, parce qu'ils l'aménagent, ils l'occupent, ils lui donnent une cohérence. Et puis, bien sûr, il y a une production derrière, et qu'on sait tous que les touristes ils ont envie de manger des produits locaux quand ils arrivent ici, de trouver des choses qui donnent du relief au pays, de la profondeur au pays. Voilà. Donc, effectivement, c'est un problème de fond, un problème qui date d'une longue période, je dirais. L'espoir que nous avons, c'est que le bon fonctionnement du PADUC, à terme, arbitre et permette de protéger les productions agricoles.
Donc, très bien. Merci Pierre. Anto, de ton côté, oui. Alors est-ce qu'il y a des questions ? Parce que peut-être que voilà.
Eh bien justement, je vais te passer
alors,
la charge.
Juste importante pour ceux qui sont sur Facebook. Attends, parce que ça, il faut penser qu'il y a un défaut de son entre la radio et un décalage et Facebook. Donc en gros, pour ceux qui sont sur Facebook, ils vont pas entendre les questions que Anto va poser. Donc du coup, je les répéterai. Pour ceux qui sont à la radio, ça va vous faire bizarre parce que vous allez
avoir
encore deux fois
qui va te les poser carrément.
Ouais ouais, et moi je vais devoir les répéter. Donc comme ça, c'est pour ceux qui sont auditeurs à la radio, vous allez comprendre pourquoi on répète deux fois. OK. Donc j'écoute.
Laurent.
Alors les questions sont essentiellement posées sur le coût du transport. Ce sont les premières réactions qu'il y a.
Ça tombe bien.
Et il y a eu une autre question aussi. Peut-être, je pense qu'ils n'ont pas réellement compris le but du collectif, c'est-à-dire pourquoi nous rejoindre.
Ok. Alors donc deux questions. Je répète donc hein, pour ceux qui sont sur Facebook, les internautes. Donc une question sur le collectif et sa nature. Donc le pourquoi de ce collectif en gros et quel est l'intérêt de le rejoindre. Bien. Donc je vais revenir un petit peu peut-être sur les propos tout à l'heure de Laurent. Et puis une question sur le transport, notamment le coût des transports. C'est vrai que bon une affaire aussi qui concernait encore une fois la cette période de confinement. Une des angoisses supplémentaires, je dirais, ça a été de vérifier en effet les incroyables prix du transport que l'on a pu voir hein, à la fois dans le transport aérien et maritime, où là déjà qu'habituellement on était rompu à des coûts estivaux assez importants hein, et on a tant souvent des réactions par rapport à cela. Là, on était vraiment au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer. Hein. Bientôt pour venir en Corse, c'était le coup d'un tour du monde. Donc c'était assez incroyable. Non, mais sans plaisanter, on va pouvoir en parler dans un instant avec donc Bernard Giudicelli. Juste avant, brièvement, je vais répondre donc à la question qui concerne ce collectif. Donc le collectif, en effet, rassemblé autour de l'initiative portée par Laurent Lafarge, donc qui est commerçant donc à Calvi et à Corbar, vise à essayer de trouver dans l'urgence finalement des solutions, d'abord d'étudier la problématique, les problématiques qui sont liées à la fois à cette période de crise, mais de façon plus générale en Balagne, en effet, aux besoins du tourisme de se renouveler, et puis aussi d'être tout simplement compétitif. Là, on va parler des transports, on a un problème assez important qui court depuis plusieurs décennies maintenant, donc il va falloir pouvoir y répondre. Ce collectif, il a vocation donc à essayer de créer de la solidarité dans une période où on en a éminemment besoin, entre les commerçants de Balagne qui sont plusieurs milliers, qui sont nombreux, quelle que soit d'ailleurs, je dirais, leur définition, hein, pas forcément seulement des acteurs du tourisme comme Fabien et moi, hein, qui sommes donc en effet prestataires de services. Moi j'ai une compagnie de guides touristiques, donc culturels. Fabien donc vient de parler de son activité. Bien au-delà de ça, il y a évidemment des hôteliers, des restaurateurs, mais il y a aussi des artistes, on va en parler avec Jérémy dans un instant. On pourrait étendre cela à l'ensemble des commerçants de Balagne qui, bien entendu, ont une activité beaucoup plus forte pendant la période estivale, quel qu'il soit, hein, quasiment quel qu'il soit. Et donc, il y a un intérêt commun, en effet, aujourd'hui. Et donc, le collectif qui s'est rassemblé à minima, évidemment, compte tenu des contraintes sanitaires, tout simplement. Hein. Donc, c'est pas une volonté, à un moment donné, de barrière. C'était les contraintes qui imposaient donc des rassemblements d'un maximum de 10 personnes. Donc, c'est rassemblé avec différents acteurs, justement, principalement, quand même, touristique, en effet. Pourquoi? Parce que ces acteurs touristiques, eh bien, ils étaient rompus à l'exercice, hein, pour l'essentiel, de ces fameuses réunions dont nous parlions tout à l'heure, et avaient une certaine expertise, un certain niveau d'expertise, en tout cas, sur ces dossiers. Donc, il était nécessaire d'abord de faire l'état des lieux avec les connaissances dont nous disposions, et ensuite, en effet, dans un second temps, si le collectif se poursuit, s'il ambitionne un rassemblement plus important, il y aura donc des réunions qui se feront en d'autres temps avec une ouverture beaucoup plus populaire. L'intérêt de le rejoindre, c'est d'avoir une réflexion commune, une solidarité et un moyen d'action de plus en plus pertinent pour pouvoir justement réagir face aux problématiques qu'on rencontre, celle du transport qui va être immédiatement évoquée, et celle aussi de la prolongation de la saison dont on a un petit peu parlé avec Fabien, mais on va pouvoir développer aussi justement avec Jérémy, et puis aussi de l'attractivité de la destination. Il faut penser que si on gère une crise en 2020, on prépare aussi assurément une reprise en 2021, 2022, 2023. Donc il faut penser au tourisme de demain, puisqu'il y a une aspiration populaire en Corse, apparemment peut-être plus encore qu'ailleurs, du fait de l'insularité, du fait de notre rapport à la terre, de notre attachement, de notre intérêt pour notre environnement. Il va falloir peut-être collectivement justement penser le tourisme de demain, au lieu de vouloir le faire disparaître, le réformer dans le bon sens. Et donc ce collectif, ça peut être aussi une pierre amenée à cet édifice-là. Alors, on va parler maintenant des transports, parce que s'il y a une question, en effet, qui est fondamentale, c'est bien celle-ci. D'ailleurs, les gens, tu vois, réagissent, Bernard, sur Facebook en ce sens. Le transport, on a vu des tarifs, on va commencer par ça, puisque c'est la question qui nous est posée. Après, on reviendra un petit peu sur le passé, sur l'historique des ports et aéroports insulaires, et surtout Balanin. Pourquoi a-t-on assisté en effet à ça, c'est-à-dire des coûts exorbitants, prohibitifs, qui non seulement évidemment n'encouragent pas à venir, mais en plus sont contre-productifs, parce qu'on pourrait imaginer que ce sont les coûts qui vont être en vigueur pendant cette saison, enfin du moins cette demi-saison à venir.
Alors bonjour à tous d'abord, bonjour Anto, bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs. Alors cette problématique, évidemment, on la voit, elle abonde sur les réseaux sociaux depuis le confinement. Alors il faut savoir que, bien évidemment, la mobilité, donc le transport, c'est l'essence du tourisme, on se déplace. Donc forcément, quand on arrive à parler d'économie touristique, on parle transport, c'est naturel. Et le confinement, le Covid a forcément impacté sur la mobilité. Donc ça a été la première impact forte du Covid, ça a été sur le transport. Donc on l'a vu, les transports ont été à l'arrêt, que ce soit les transports maritimes, terrestres, et en particulier aériens, se sont arrêtés, parce que les modules de transport, c'est la proximité, c'est aussi le véhicule du virus, donc forcément ce sont les biais qui ont été très impactés dès le début de la crise et qui sont encore très fortement impactés par cette crise. Donc les compagnies aériennes ont vu leur activité quasiment tomber à zéro pendant 2 mois. On n'avait aucune lisibilité sur les perspectives de reprise. Tout à l'heure, Pierre ou Fabien évoquaient que la fédération IATA annonçait une remise à niveau d'ici 3 ans. C'est ce qu'ils avaient annoncé au début. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils accélèrent un petit peu leur process parce que on parlait de 30%, 40% au mois de juillet. Ils commencent à estimer que ce sera 60% et peut-être plus pour certaines compagnies. Donc finalement, le côté sanitaire s'améliorant, on se retrouve avec une prévision qui sera peut-être meilleure. Alors les compagnies, forcément, avec une illisibilité telle que nous l'avons tous vécue, se sont retrouvées avec un système de yield management, c'est-à-dire que le prix de la place évolue en fonction de la demande et de la disponibilité. Donc au gré des annulations, des vols, des demandes, des requêtes faites sur certaines destinations, ben, elles ont fait un petit peu des prévisions et on a vu des prix, on peut qualifier d'hallucinant, hein, parce que quand on a vu certains tarifs, comme tu le disais, le prix d'aller à New York en famille, c'était pour une personne pour venir à Bastia, donc ou à Figari en l'occurrence.
Et même parfois bien au-delà de ça. Voilà, parce qu'on a des tarifs sur New York qui peuvent être attractifs.
Exactement.
Là, on pouvait traverser allègrement la moitié de la planète, peut-être davantage, c'était incroyable. Hein.
Exactement. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, la Corse, c'est vrai qu'elle souffre d'un problème de tarification, principalement lié au fait que on a un marché qui supporte 2 principes de transport, une délégation de services publics et un marché qui est lié à l'activité touristique économique en général. Donc la juxtaposition des deux doit être bien articulée. Et si elle n'est pas bien articulée, elle va occasionner ce genre de distorsion, parce que certaines compagnies vont avoir des contraintes, d'autres vont avoir des impossibilités, que ce soit tarifaires ou de destination, tout simplement. Donc il y a des marchés protégés, il y a d'autres marchés ouverts. Donc d'avoir les deux sur finalement un même flux, ça fait que ça crée une distorsion. Et là, il est impératif qu'au niveau de l'organisation régionale des transports, on prenne l'aspect économique aussi dans la délégation de services publics, puisque bien évidemment, les Corses ont besoin de se déplacer, c'est un besoin vital, notamment pour le sanitaire. Mais il ne faut pas imaginer que ça, et il faut inclure l'aspect économique dans les deux sens. Parce que on le voit aujourd'hui, pourquoi on fait ce collectif, pourquoi on voit que des collectifs se créent un petit peu partout en Corse, c'est qu'on s'aperçoit que le PIB de la Corse, et c'est en effet 31% lié à l'activité directement touristique, mais on le sait très bien, on dépasse les 60%, et dans notre micro-région, on est à plus de 70% qui est lié à l'activité touristique. Donc l'économie, au sens large de la Corse, avec un effet de ruissellement, comme le disait Pierre tout à l'heure, est très majoritairement dépendant du tourisme. Donc ne pas inclure cette activité-là dans la délégation de services publics, dans l'organisation, au sens général, des transports, est à mon sens une faiblesse, puisque on ne peut pas négliger 70% de l'activité économique en pensant uniquement à un flux dans un sens. Donc voilà pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors c'est vrai que particulièrement sur la micro-région balanine, on souffre d'un problème de transport, et notamment du transport aérien. Il suffit de regarder les chiffres, et les courbes sont assez édifiantes. Hein. En 20 ans, même en 30 ans, l'aéroport de Calvi, sur les 20 dernières années, n'arrive pas à prendre 100 000 passagers, alors que vous avez une destination similaire, telle que la destination de l'extrême sud, de Figueres Sud Corse, qui est partie il y a 20 ans au même chiffre que nous, c'est-à-dire 250 000 passagers annuels, pour aujourd'hui avoir 900 000 passagers annuels, quand Calvi peine à en avoir 350 000. C'est-à-dire que nous, on a fait une augmentation de 50%.
Et ils sont à 280%.
Et ils sont à plus de 300%.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc voilà, sur des micro-régions similaires en termes d'attractivité. Alors c'est vrai qu'il y a des particularités aéronautiques sur l'aéroport de Calvi, mais ça ne justifie pas une telle disproportion, puisqu'on tout à l'heure on évoquait les Baléares, mais il y a d'autres destinations insulaires qui souffrent aussi de difficultés aéronautiques, enfin ou de contraintes plutôt, parce qu'il ne faut pas y voir des difficultés nécessairement, de contraintes aéronautiques, et qui pour autant bénéficient de flux aériens très importants. Donc il y a des moyens de compenser ça, et il faut justement travailler là-dessus, pour voir comment on peut essayer de limiter l'impact de ces contraintes aéronautiques, pour pouvoir avoir l'arrivée d'une concurrence, parce que quand on parle de tarifs, pourquoi les tarifs sont aussi exorbitants ? C'est un problème de concurrence. On sait très bien que dans tout commerce, quand il n'y a pas de concurrence, il y a des dérives, forcément. Et il est impératif d'avoir une concurrence, et notamment de ce que l'on appelle communément des compagnies low cost, donc qui sont des compagnies où la gestion est optimisée. D'ailleurs, ce sont les compagnies qui souffrent le moins aujourd'hui de la crise Covid, parce qu'elles ont un système de gestion qui leur permet d'avoir le cash financier pour tenir mieux que les autres compagnies. Donc elles souffrent beaucoup moins que les autres compagnies.
Elles assurent les plus grosses réussites au niveau commercial. Je pense notamment à EasyJet, avec son succès, voilà, qui est incroyable.
Ouais, et qui fait référence avec une qualité de service, parce que EasyJet, c'est aussi une référence en termes de qualité et de sécurité. Elle est parmi les compagnies les plus sûres du monde, et devant Air France, qui pourtant, on imagine que ça fait référence. Mmh. Ils ont un taux d'incidents et d'accidents nettement inférieur à ceux d'Air France.
Alors tu parlais justement la problématique technique, hein, concernant l'aéroport de Calvi. On va pouvoir y revenir à travers notamment l'exemple justement d'une compagnie qui a une expérience calvaise, donc, hein, Volotea, ouais, et qui, après s'être engagée sur une saison, finalement, s'est désengagée de Calvi et restée, je crois, sur l'essentiel des autres aéroports de l'île. Pourquoi ce désengagement? Ce sont des raisons techniques au départ, qui occasionnent ensuite évidemment un défaut financier.
Voilà, l'argument qui a été avancé par la compagnie était un surcoût lié à des déroutements, conséquence à des conditions météo. Alors la particularité aérologique de l'aéroport fait que dans certaines conditions de vent, notamment des libèches assez forts et assez irréguliers, l'avion pourrait se poser mais ne pourrait pas redécoller puisque la configuration géographique et aérologique fait que le décollage face à la montagne n'est pas autorisé pour certains types de vols commerciaux et le décollage avec un vent arrière subit des contraintes qui ne permettent pas toujours aux compagnies d'assurer un redécollage. Donc, il est arrivé, notamment dans la première année où Voloté est venu, de subir un certain nombre d'irrégularités qui ont conduit les déroutements sur l'aéroport de Bastia et donc qui ont engendré un surcoût. Et ce surcoût a été estimé comme un frein, puisque ce sont des compagnies qui ont une optimisation du coût d'exploitation. Et donc, elle a décidé l'année qui a suivi de rerouter l'ensemble de ses vols sur les autres aéroports et de ne plus desservir Calvi. Et donc, c'est vrai que ce coût-là, on est en train de voir comment on peut le...
On a une idée du coût, du volume ?
À la louche, mais c'est très compliqué pour une compagnie qui fait des vols IATA saison-été, suivant les années, parce que là aussi ça dépend du vent, c'est à peu près entre 200 et 300 000 euros. Mais voilà, il faut pas trop s'avancer, ça dépend de... Voilà,
c'est très pertes, elle peut être compensée à quel niveau ? Est-ce que... Je dirais la Corse, la région, a un moyen justement d'intervenir.
Alors c'est ce pourquoi nous avons sollicité les autorités qui sont en gestion de ça, c'est-à-dire, alors il faut savoir que l'aéroport appartient à la collectivité de Corse, mais elle est gérée, donc le gestionnaire, c'est la Chambre de commerce et d'industrie régionale aujourd'hui, qui gère l'ensemble des quatre plateformes, et donc on les a sollicités pour savoir un petit peu comment on pouvait faire. Une proposition avait été faite par le gestionnaire, c'est-à-dire par la Chambre de commerce, de prendre 30% des coûts liés au déroutement et les 70% seraient pris en compte par la collectivité de Corse. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été avancée par le gestionnaire suite à nos sollicitations. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse de la collectivité de Corse sur cette problématique-là. On nous évoque des problèmes juridiques, mais il faut quand même remarquer qu'en droit européen, notamment, puisque c'est celui qui réglemente le droit aérien, il faut savoir que gérer deux situations différentes de la même manière, c'est une injustice. Donc nous, on pourrait demander justice en disant « nous sommes dans des configurations différentes ». Pour qu'il y ait justice, il faut le gérer de manière différente. Donc c'est une négociation sur laquelle il va falloir être assez virulent pour que nous puissions avoir cette équité finalement avec une gestion différente de ces surcoûts-là.
On a des exemples d'ailleurs sur d'autres aéroports continentaux ou à l'international qui pourraient nous inspirer.
Pas ma
la résolution de cette
non,
problématique-là,
pas, non,
pas encore. Hein, donc, non. Il va falloir peut-être créer ces solutions.
Alors, oui, mais de toute façon, on a vraiment un statut, enfin, pour le coup, dérogatoire, puisque la région bénéficie d'un statut dérogatoire par rapport aux autres régions françaises. Donc, il va falloir probablement agir là-dessus pour essayer de voir comment on peut compenser ça. Mais malgré tout, il ne faut pas non plus avoir l'arbre qui cache la forêt, j'allais dire. Et il va falloir aussi que des investissements majeurs soient faits sur l'aéroport et que l'on puisse avoir la levée d'autres contraintes techniques. Mais
et notamment, par travail, exemple, on a parlé parfois de l'allongement ou de l'élargissement de la...
Alors, il y a l'allongement de la piste qui pourrait... Voilà. Là aussi, techniquement, résoudre certains problèmes.
Alors, attends, parce qu'Antoine me fait signe, j'ai pas
non,
compris.
Non, simplement pour dire qu'il reste 30 minutes.
Ah oui, impeccable, tout va bien. Tout va bien, vous pouvez finir les croissants comme ça. Hein. Il nous reste 30 minutes pour ceux qui sont sur Facebook, voilà.
Donc oui, il y aurait...
technique, ouais.
Il y a l'aspect technique, le balisage du parcours aussi de montagneux, je dirais, qui a été notamment mis en évidence par une société qui s'appelle Swiss Control à l'époque, avec le consortium ATR, avait envisagé les vols de nuit.
Oui,
donc
je me souviens,
techniquement,
histoire,
voilà,
oui,
c'était possible.
Il y avait un intérêt là-dedans. Aujourd'hui, il y aura un intérêt justement à revenir sur cette ambition-là.
Mais aujourd'hui, qui accepterait de décoller le dimanche à 14 heures à la fin d'un week-end et qui accepterait de voir son week-end amputé d'une journée, donc sur 3 jours, si on n'en plus.
Attends, parce qu'Anto m'envoie des messages par là-bas, mais je vois rien. Ce qui...
Non, c'est Laurent Lafarge.
Alors, c'est Laurent Lafarge. Le type qui a pas ses lunettes, il voit rien du tout. WhatsApp. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur WhatsApp? Il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Ah. Excuse-moi, Bernard, tu vois, on fait...
Donc oui, les contraintes, oui, les vols de nuit, enfin les vols de nuit, il faut d'abord être raisonnable, mais c'est vrai que déjà commencer par un décollage en fin d'après-midi l'hiver ou en début de soirée pourrait permettre déjà d'allonger de manière conséquente les courts séjours notamment, hein, puisque on sait qu'il y a un potentiel assez important en arrière-saison, puisqu'on parle tous, parce que là il faut quand même être conscient que l'on parle pas forcément de juillet-août, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais l'objectif aussi de cette après-crise, ça va être de déconcentrer dans le temps et dans l'espace le tourisme. Tout à l'heure, tu évoquais le tourisme de masse. Je ne sais pas si on peut parler de tourisme de masse. Tu disais oui, c'est vrai que ponctuellement, oui, mais...
Oui, c'est plus une impression, puisque voilà, le tourisme de masse en Corse n'existe pas. Mais par contre, il est ressenti. Voilà, sans ça, il n'y aurait pas de polémique, de toute manière. C'est pour ça que je dis, il faut savoir prendre en compte aussi, nous, professionnels du tourisme,
tout
malgré
fait.
Tout, l'interprétation que font les populations locales, en l'occurrence, nos compatriotes,
titre.
Et à juste titre, justement, de ce phénomène. Parce que si on leur dit le tourisme de masse, ça n'existe pas, c'est une illusion totale, ils vont se dire non mais je suis désolé, mais moi je le vis. Et donc en effet, il faut prendre quand même conscience justement de la réalité, en perception en tout cas de certains, essayer d'y trouver des solutions. Et comme tu dis, donc la solution aussi, c'est en effet une meilleure diversification, répartition des personnes sur le territoire. Et alors, on a une question justement sur WhatsApp de Jean Escal, que l'on salue. Jean Escal, qui est un grand professionnel de la plongée et désormais de la randonnée familiale. On le voit sur Facebook régulièrement. Il a eu l'occasion de faire un magnifique jardin pendant le confinement. On l'a suivi, on le salue. Alors Jean nous parle justement de l'aérien et nous dit « Le prix de l'aérien est un problème de remplissage annuel. En hiver, les avions volent pratiquement vides, d'où la répercussion du prix sur l'année. Tant que nous n'aurons pas des saisons très longues, le problème se posera. »
Alors, il est vrai que l'hypersaisonnalité, forcément, comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'on a un yield management, c'est-à-dire que en fonction de la demande, le prix varie pour lisser les coûts et également les bénéfices des compagnies. Donc forcément, plus on étalera dans la saison par le biais de tarifs intéressants. Alors là, c'est un petit peu aussi ce cercle vertueux à mettre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des tarifs intéressants en avant et en arrière-saison. Mais quand on parle d'accessibilité, c'est vrai que on est une destination insulaire. Pour la rendre accessible, il faut qu'il y ait des moyens de transport avec des destinations émettrices bien choisies. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent venir à partir des endroits où ils résident. Donc il va falloir cibler les bassins émetteurs et aussi avoir des tarifs attractifs. Quand on a vu certains tarifs, c'est rédhibitoire. Personne ne pourrait payer 800, 900 euros.
D'ailleurs, comment ça se fait que les compagnies, je dirais... puis communiquer en ce sens-là, parce qu'en effet, tout à l'heure tu l'expliquais, donc hein, c'est en gros un système informatique qui ajuste les prix en fonction de l'offre et de la demande, etc. Bon, et des conditions en effet d'exploitation. Bon, ça c'est entendu. Mais comment se fait-il qu'on puisse néanmoins laisser justement ces programmes afficher ce type de prix qui sont ensuite repris par les médias, les locaux, sur les réseaux sociaux, etc. et qui sont complètement contre-productifs ensuite pour la destination, parce que ça fait une publicité déplorable à la fois à la Corse, mais aussi à la compagnie hein, en définitive.
Tout à fait. D'ailleurs, la compagnie, en l'occurrence, a de suite communiqué sur d'autres tarifs.
Ouais.
Et je pense... Alors, normalement, dans les systèmes de yield, il y a des bornes, hein, il y a des tarifs qu'on ne doit pas dépasser ni vers le bas ni vers le haut. Visiblement, ces bornes étaient un peu trop hautes et du
mal
coup...
Ajustées.
Voilà, mal ajustées. Et on a vu ce genre de tarifs complètement hors normes, hein, puisque là, c'est, pour le coup, c'était complètement rédhibitoire. Un tarif tel que celui-là ne permettait plus d'accéder à la Corse. Donc oui, il va falloir déconcentrer, donc comme je le disais, dans le temps et dans l'espace, et notamment dans le temps, et c'est-à-dire l'allongement des saisons. Et
on
a besoin
en parler,
de ça.
Voilà, un instant, ouais.
Et oui, parce que là aussi, je crois que Évidemment, les transports, le transport, comme certains ont plaisir à le dire, c'est la colonne vertébrale du tourisme, certes, mais un transport sans attractivité, aujourd'hui, ne fera pas de touristes. Il ne suffit pas de mettre des avions ou des bateaux pour faire une destination touristique. Aujourd'hui, la Corse bénéficie encore d'une attractivité passée, naturelle et autre, notamment la Balagne, qui, on le voit, s'essouffle avec le temps. L'attractivité de la Balagne, c'est très largement émoussé, hein, on l'a vu ces 20 dernières années, et il ne suffira pas de mettre des vols et des vols pas chers pour avoir une clientèle qui viendrait. Il va falloir aussi rallumer la lumière, j'allais dire, pour remettre un phare d'attractivité, alors que tout le potentiel est là, on a des activités de pleine nature, on a du sport, on a de la culture, on a une identité culturelle, on a un milieu pour le sport nature qui est l'activité aujourd'hui parmi la plus recherchée. C'est un des critères de recherche aujourd'hui des destinations touristiques, c'est quelle activité sportive nature avec justement...
On a vu l'émergence en plus ces dernières décennies en Corse, bon, de la randonnée qui s'est démocratisée et est devenue familiale, je pense notamment même aux randonnées intervillages, hein. On a des milliers de kilomètres justement d'anciennes voies qui sont praticables aujourd'hui, qui sont réaménagées. Il y a eu beaucoup d'efforts au niveau de la région de Balagne, enfin du pays de Balagne notamment, sur le programme Leader pour financer aussi des sentiers du patrimoine, etc. Le développement des accompagnateurs montagne, mais aussi d'un point de vue plus extrême peut-être le canyoning, l'escalade, le rafting, le VTT.
Il faut savoir qu'avec le VTT à assistance électrique aujourd'hui qui se répand très largement dans les locations, dans les sociétés de location de matériel et également les accompagnateurs, aujourd'hui ça rend accessible, parce que c'est vrai que le relief insulaire nécessitait une condition physique assez bonne. Aujourd'hui, avec le VTT à assistance électrique, c'est un sport devenu familial et tout le monde peut accéder à des parcours VTT parmi les plus beaux du monde qui ne sont malheureusement là aussi pas assez mis en valeur en termes d'image. Il faut savoir que la plupart des marques internationales dans le monde du vélo, du VTT, font leur présentation en Corse.
Bien sûr.
Giant, Scott, ont fait des présentations de leur dernier matériel et notamment les derniers VTT à assistance électrique en Corse. Et donc, ça veut dire que tous les magazines sont venus. Et là, on n'arrive pas, nous, à concrétiser cette attractivité parce qu'il manque cette synergie. Le tourisme, c'est une synergie entre différents acteurs. C'est une chaîne où tous les maillons sont essentiels. Alors, on imagine que les transports sont les moyens de développer le tourisme. Oui et non. Parce que, bien sûr que sans transport, il n'y aura pas de tourisme. Mais avec du transport, il n'y en aura pas s'il n'y a pas aussi toute la chaîne qui fonctionne. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas focaliser que sur un point, même si aujourd'hui, c'est vrai, on le voit, parce que la clientèle qui était déjà intéressée par la Corse dit « il y a un problème transport ». Mais sur cette clientèle-là, le travail, j'allais dire, est déjà fait, puisque c'est une clientèle qui souhaite venir en Corse. Celui qui a vu le tarif exorbitant proposé et qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui souhaitait aller en Corse.
Bien sûr.
Aujourd'hui, on a un potentiel pour faire venir les gens, et notamment hors saison. Tu évoquais tout à l'heure l'arrière-pays, la Castaniche, le Niolo, comme le disait Pierre, sont des points qui aujourd'hui ne sont pas du tout exploités, mais qui ont un potentiel énorme. Donc là, il y a tout un tas d'activités, de structures aussi à développer. Je pense qu'on parlera de la culture.
Alors on va y venir dans un instant. Je voulais juste, parce que comme on a le temps nous est compté, parler brièvement du port d'Illerousse.
Brièvement du port d'Illerousse. Il reste 20 minutes environ, donc.
Voilà, brièvement du port d'Illerousse, parce qu'on en a, on l'a pas évoqué. Le transport aérien a fait en effet polémique. Oui. Mais par contre, et notamment à l'occasion des dernières interventions au niveau de l'État, à travers notamment cette affaire justement des avions, du moins de l'incapacité, l'impossibilité de passer en Corse avant le 20 et quelques juin. Bon, finalement, on est revenu là-dessus, mais on voyait que les transports maritimes, par contre, eux, se poursuivaient. On avait deux ports en Balagne jusqu'à 2016. Le port de Calvi a fermé, on connaît les raisons. Celui d'Illerousse aurait pu espérer une embellie avec un report justement de passagers. Qu'en est-il ?
Alors aujourd'hui, le port d'Illerousse a quand même progressé hein, depuis ces 20 dernières années, même si on constate que là aussi, le potentiel n'y est pas, il n'est pas concrétisé. Principalement, là aussi, je pense qu'il y a un problème d'attractivité hein, de la destination que l'on voit derrière. Parce que techniquement, c'est le port le plus proche du continent. On le voit bien qu'économiquement, pour les compagnies, ce serait plus rentable. Donc il y a aussi, je pense, hein, en substance, un problème d'attractivité, puisque vu que on parle d'opérateurs touristiques, donc des opérateurs privés, puisque la seule compagnie aujourd'hui qui développe le port d'Île-Roux, c'est la Corsica Ferries, ouais. Puisque Corsica Line opère uniquement avec des cargos mixtes, donc les seuls ferries qui viennent sur Île-Roux sont la Corsica Ferries. Et sur la Corsica Ferries, si avec quelques tonnes de carburant en moins, il ne maintient pas toutes les rotations prévues, il y a probablement un problème de taux de remplissage derrière, donc d'attractivité. Donc là, on retombe toujours sur ce fameux problème d'attractivité, et je crois que c'est l'essentiel, en tout cas pour la Balagne, c'est de recréer une attractivité. Et les transports, évidemment, sur l'aérien, il y a un problème, on l'a évoqué, c'est un problème technique. Mmh. Donc celui-ci, il va falloir que les pouvoirs publics compensent, pour un problème d'équité, compense ces problèmes techniques. Pour le maritime, on le voit, il y a vraiment un problème d'attractivité, puisque techniquement, il n'y a pas de contrainte.
Oui, comme disait notre ami André Doriano, qu'on a lu encore ce matin, il y a deux jours, dans un restaurateur Île-Roux, très très au fait, justement, des questions sur le port d'Île-Roux, il relève systématiquement, il a raison de le faire, le port d'Île-Roux est le plus proche du continent français, et donc, pour un transporteur, logiquement, hein, s'il n'y a pas de problème d'attractivité, c'est celui qui va lui permettre le plus grand bénéfice, non seulement en matière de temps, en matière de carburant, mais aussi du point de vue environnemental pour ceux qui s'intéressent à cette affaire, ils sont de plus en plus nombreux, avec l'empreinte carbone bien sûr, qui est évidemment bien réduite, hein, considérablement réduite, si on prend par une comparaison avec le port par exemple de Porto Vecchio, hein, ou sur l'extrême sud, où on va avoir quasiment le double. Donc c'est assez intéressant de le souligner. On va terminer ce débat, ce rendez-vous, cette rencontre avec Jérémy. Jérémy, bonjour.
Bonjour Anton, bonjour à tous.
Jérémy, c'est intéressant parce qu'il est à l'image justement de ce qui est nécessaire de développer aussi, hein. On a parlé du sport, on a parlé des prestations de découverte, de loisirs, etc. L'hôtellerie, la restauration, les productions agricoles. Mais Jérémy représente aussi bien les arts. Alors il y a beaucoup de domaines à investir, mais là en l'occurrence il s'agit principalement de la musique. Jérémy, il est à la fois musicien dans différentes formations, tu vas nous l'expliquer, et aussi entrepreneur à côté de cela, puisque tu as un studio et également une entreprise qui propose donc de la mise à disposition et donc de la sonorisation, je dirais, d'événements en tout genre.
C'est ça. Donc voilà, moi je suis donc musicien professionnel, je suis accordoniste, je joue avec pas mal de formations en Corse. Voilà, que ce soit avec Antonio Chosi pour l'Ultimo Giro, ou l'Opéra Barré, le Fiado Montese, le Svilo Diz, voilà, voilà, donc je suis musicien, on dirait intervenant. Et je suis aussi donc gérant d'une société de sonorisation, d'éclairage, voilà, pour le live, de location de matériel aussi de sonorisation, et je tiens, voilà, un studio d'enregistrement depuis peu. Voilà.
Alors toi, tu es particulièrement concerné par la crise, puisque quand on parle des métiers du tourisme qui sont sinistrés, imaginez un petit peu ce que cela peut être dans le milieu de l'événementiel ou des spectacles.
Exactement, voilà, l'événementiel, pour le coup, on était réellement en première ligne donc de cette crise du Covid, avec les premiers concerts annulés dès le mois de mars. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'opéra qui était super, moi j'ai pu assister, César Vezzani à Bastia, donc à la Générale, qui a été annulée. Voilà, c'est les premiers événements en Corse qui ont été annulés à partir du mois de mars. Et on est en première ligne dans le sens où il y a une difficulté sanitaire naturellement pour pouvoir accueillir du public, il y a des dispositions qui ont été mises en œuvre. Cependant, on n'a pas tous les éléments pour pouvoir permettre d'accueillir sereinement le public. C'est-à-dire, il faut se mettre à la place du public, l'impact psychologique que ça a eu, est-ce que des gens vont se sentir en sécurité avec un masque, est-ce qu'ils vont se détendre dans le cadre d'un concert en étant, voilà, avec des normes de distanciation. Voilà, il y a un côté vraiment psychologique au spectacle en tant que tel. c'est une crise par rapport au statut d'artiste en tant que tel, donc au statut d'intermittent.
Là, il y a eu des réponses qui ont été apportées par le gouvernement. Est-ce que ça satisfait justement les intermittents du spectacle ou...
Alors, il y a eu, pour l'instant, on n'a pas de précision quant à l'application, comment dire, des annonces du président de la République. C'est-à-dire que ça a été voté comme quoi il y aura ce phénomène d'année blanche. Cependant, on n'a pas d'indication sur le, comment dire, sur la date d'anniversaire, sur voilà, notre statut est particulier. Il faut donc 43 cachets pour les artistes, 507 heures et à peu près 64 pour les techniciens afin de pouvoir bénéficier d'une indemnisation qui nous permet voilà de créer. Voilà, c'est un statut vraiment propre à la France. Et actuellement, on navigue réellement à vue. On ne sait pas de quelle manière. Financièrement aussi, voilà, comme je disais, les concerts vont pouvoir reprendre. Voilà, si on a une salle de spectacle, on peut prendre un auditorium ou une salle où d'habitude on peut mettre 100, 120 personnes avec les mesures de distanciation et voilà les mesures sanitaires générales, on pourra remplir à peu près à une cinquantaine de personnes si tout se passe bien. Donc financièrement, c'est pas rentable, c'est un état anxiogène pour le public. Voilà, on peut dire qu'il y a toujours des événements en extérieur qui peuvent se faire. Cependant, d'un point de vue national, ça a été renforcé au niveau régional. Moi, je sais qu'avec ma société, énormément de festivals ont été annulés, d'événements à la fois privés, publics, parce que on reste, même si on a, comment dire, quelques informations quant à la possibilité de faire des événements. On n'a pas tous les éléments pour que ça se passe correctement pour les artistes et pour le public en tant que tel.
Ok. Alors je pense tout à l'heure aux questions que je posais à Pierre Acquaviva. On sait que la production artistique de Corse, et particulièrement la musique, s'exporte depuis des années.
Oui.
Probablement de mieux en mieux. Hein. On a commencé avec Imouvrigne, etc., qui ouvrait ouvert la brèche, peut-être, d'une façon populaire, et en ont bénéficié énormément de groupes. En Malagne, bien sûr, on connaît bien Villette et le parcours qui a été accompli. Aujourd'hui, beaucoup de groupes fleurissent un petit peu partout.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a... quel est le rapport, justement, que vous pouvez entretenir avec le tourisme ? C'est-à-dire le ratio que vous pouvez avoir entre ce que vous allez exporter, justement, et ce que vous allez donner sur place par le fait de la saisonnalité, de la fréquentation touristique.
Alors, la saisonnalité donne le fait qu'il y a énormément de groupes qui fleurissent, comme tu disais, depuis à peu près 5-6 ans, et le côté, enfin, la région de Balagne en particulier, le tourisme a un impact énorme pour les autoproductions, que ce soit dans les églises ou que ce soit voilà, dans les salles de spectacle en général. Faut compter à peu près, voilà, pour avoir participé à pas mal de formations en Corse de groupes qui faisaient des autoproductions en église, c'est à hauteur de 97% de touristes à peu
c'est
près.
Colossal, ouais.
C'est colossal. Alors, les questions, les problématiques qui peuvent se poser, c'est comment justement pallier le fait de concentrer ces productions de cette manière, voilà. Je pense qu'on a aussi un problème de carence en ce qui concerne, de manière générale, la formation artistique, mais surtout pour rebondir à cette crise du Covid, des résidences artistiques, voilà, pouvoir permettre à la création insulaire de se diversifier et de proposer d'autres offres pour essayer de pallier cette impossibilité, voilà, de tout simplement remplir les salles, donc et d'avoir un support à exporter, voilà, parce que l'export des groupes. On est confronté au même problème qu'on a abordé, c'est toujours le problème du transport, c'est toujours le problème, voilà, c'est un groupe de 5-6 personnes, on sait ce que coûte un billet d'avion, même si c'est pour une tournée hivernale, c'est vite très compliqué. Donc il y a des partenariats qui se mettent en œuvre, mais c'est vrai que c'est complexe là, pour le coup, on est en pleine obscurité pour la saison touristique en tant que telle. Et ce que vous aviez abordé tout à l'heure tous ensemble, le fait de prolonger entre guillemets la saison, c'est une très bonne idée dans le sens où on a des possibilités de faire des concerts encore en extérieur au mois d'octobre, pourquoi pas même au mois de novembre,
peut-être décembre encore.
Exactement. Donc il y a plein de solutions, je pense réellement. Il faut rendre conscientiser réellement les gens à cette approche. Qu'il n'y a pas que deux mois où il y a des concerts qui se font dans les bars avec des groupes formés au dernier moment et qui voilà qui ne laisse pas aussi place aux professionnels. Voilà, il y a quand même, c'est un point sur lequel je voudrais insister aussi.
Avant qu'on conclue, je voudrais poser une question parce que souvent on entend justement dans les aspects néfastes engendrés par le tourisme notamment, et un tourisme qui s'intéresse à la culture de la Corse, c'est la crainte de folklorisation, justement. Qu'est-ce que tu penses justement de ça ? Cette question qui est posée régulièrement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, de la folklorisation possible en tout cas, hein, voire montante même en Corse, liée à la demande justement touristique et aux répondants des artistes justement ayant un besoin de vivre tout simplement.
Alors je pense que c'est réellement dans le domaine artistique national une problématique régionale où on se rend compte que depuis à peu près 5-6 ans, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à devenir intermittents parce que il y a des difficultés pour trouver un travail et puis ils ont toujours été passionnés, ils ont travaillé à la musique, ils ont fait des études à Corté ou autre part d'ailleurs. Et on se rend compte que le manque d'outils de formation en tant que telle, comme je disais, et de création qui sort du domaine de ce qu'on peut entendre des reprises tout le temps, enfin assez souvent, voilà, on entend souvent on dira dans les créations
répertoire unique
exactement, ou voilà, depuis 30 ans je pense qu'il y a une véritable carence là-dedans. Ça c'est au détriment même des gens qui veulent se lancer en tant que professionnels, en se disant quelle est l'offre culturelle, qu'est-ce qu'on peut me proposer, dans quoi je vais pouvoir m'orienter, dans quoi je vais pouvoir me former, dans quoi je vais pouvoir, qu'est-ce que je vais pouvoir aussi exporter. Voilà, je veux dire, même au niveau du marché entre guillemets de l'export des concerts, les producteurs sur le continent sont assaillis de programmes qui sont identiques et de choses comme ça. Donc il y a réellement un problème de création. Oui.
Et puis ça peut mettre des ornières aussi, d'une certaine façon, ça cloisonne la production locale en effet dans un stéréotype.
Exactement.
Et en dehors de cela, il n'y a plus d'une possibilité d'expression ou en tout cas de développement dans un projet en effet alternatif qui sortirait de la langue, qui sortirait d'un certain type de musique, etc. On entend de temps en temps des initiatives, mais qui sont rarement très porteuses d'avenir. Peut-être à cause de cela. Donc là aussi, il y a peut-être un équilibre à essayer de trouver.
Il y a un équilibre et ça participe, comme disait le monsieur, je pense aussi à l'attractivité du domaine culturel. C'est-à-dire, pourquoi on ne viendrait pas en Corse pour aller écouter un opéra ? Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y avait une grosse culture de l'opéra, par exemple, à Bastia. Pourquoi on ne viendrait pas en Corse ?
César
Vezzani, par exemple, quand on donnait l'exemple, c'est vrai. Mais entre autres, il y a l'art, il y a qui fait un travail aussi formidable pour ce qui est du théâtre. Il y a vraiment un travail de fond à faire où la folklorisation, on dira, du chant corse et puis de ce qui peut être proposé en production.
La culture corse au sens large, ouais.
Exactement, l'été. Je pense qu'il faut dézoomer, avoir une vue plus globalisante en se disant pourquoi on ne propose pas autre chose. Voilà, prendre le problème sous un autre ordre. Naturellement, il est évident que les touristes sont en recherche de chants polyphoniques, voilà, parce qu'il y a des images qui collent à la Corse. Et c'est très bien, c'est tant mieux. C'est pas du tout une dépréciation, je veux dire. Car moi-même, je chante, voilà, aussi dans des groupes polyphoniques et tout ça. Mais je pense qu'il faut, pouvoir proposer autre chose. Et ça sera peut-être un moyen, paradoxalement, pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau de cette crise, de pouvoir s'affirmer sur d'autres points que ce que l'on entend. Depuis,
ça ouvre des perspectives d'avenir. Merci Jérémy.
Merci.
Antoine, on va peut-être appeler juste
Alors il va venir justement, oui. Et je pense que c'est très intéressant de vous entendre au moins une minute chacun.
Ah voilà, si on a le temps.
Pour donner aux auditeurs l'opinion sur la création de ce collectif. Qu'est-ce qu'il va changer? Qu'est-ce qu'il va apporter?
Alors,
un petit tour de table peut-être avant.
Fabien, la question c'était d'Anto, donc pour ceux qui sont sur Facebook, une minute en gros, hein, simplement pour percevoir un peu votre opinion par rapport à l'idée d'un rassemblement justement autour de ces questions-là et la tentative d'une action commune, on va dire. Hop, tiens.
Et c'est Fabien qui prend la place d'Olivier.
Alors très rapidement, on a très peu de temps. Pour ma part, j'étais très peu collectif, réunion, etc., puisque dans ma profession, j'ai pas mal de métiers. Je suis capitaine de bateau, guide de quad, donc plutôt occupé. Le rassemblement est indispensable en cette période, puisque la Corse va véritablement souffrir d'une carence touristique et donc économique exceptionnelle cette année. Les meilleures prévisions sont catastrophiques. Donc la société corse va être bouleversée dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Nos enfants risquent de s'exiler ailleurs pour trouver du travail, nous aussi peut-être. Donc on est véritablement dans une situation d'urgence. Et je tiens à saluer l'initiative de Laurent Lafarge, parce qu'effectivement, il réussit à réunir des professionnels du tourisme et d'autres, des agriculteurs, des artistes, autour d'un enjeu commun, c'est-à-dire le devenir de notre île, l'épanouissement de nos enfants sur notre terre et la possibilité de continuer à vivre en Corse. Donc, véritablement, cet appel qu'a lancé Laurent et que je salue doit concerner tout le monde. Je vous l'ai dit, j'étais pas trop collectif et pas trop réunion, mais je m'inscris dans cette démarche parce qu'elle est passionnante, elle concerne mes enfants, elle concerne mes parents qui sont à la retraite aussi, elle me concerne, elle concerne tout le monde, donc je voudrais conclure en incitant tout le monde à rejoindre ce collectif. On est dans une situation d'urgence et c'est la première fois que l'on doit faire preuve d'unité et de solidarité en Corse. C'est des mots que l'on doit découvrir parce que c'est pas vraiment le propre de notre culture. On a des tas d'autres qualités, mais pas celle-là. Donc mettons de côté nos différends, nos jalousies, nos idées qui parfois sont contradictoires, et essayons de trouver rapidement une solution pour que l'on puisse continuer à gagner de l'argent, car l'argent sert à se loger, à se nourrir, et non pas seulement à se gaver. Voilà, sera mon mot de la fin. Merci à tous et à très bientôt.
Alors donc c'était Fabien Rocazer. On va poursuivre avec une autre intervention, peut-être Bernard Guichelli.
Oui, alors je vais... Pardon. Pour ma part, ce collectif, donc, quand Laurent m'a sollicité, bien évidemment, il est plus que jamais nécessaire. Alors le Covid a eu une vertu, parce qu'il faut toujours voir dans un mal un bien. Donc le Covid a eu cet effet accélérateur, finalement, on le sent bien quand on regarde l'évolution du tourisme en Corse et en particulier en Balagne. Il y avait d'une part un déclin, mais aussi un mauvais chemin, j'allais dire, et d'utiliser un petit peu cet accélérateur qu'a été le Covid pour... un petit peu se recentrer, se reposer des questions, que ce soit en termes d'identité, d'attractivité, de collaboration, de travailler tous en commun, d'œuvrer tous dans le bien commun, de responsabilité environnementale, de réalité économique aussi. Donc grâce à ce collectif, j'espère que on essaiera enfin tous en Balagne d'avoir une vision de l'intérêt commun, d'avoir une vision du respect de notre identité, de la mise en valeur de notre environnement, de la qualité de nos paysages, d'une synergie vraiment sur la Balagne, que pour allier donc les activités de pleine nature, la culture, le tourisme de qualité, pour enfin déconcentrer, c'est mon leitmotiv dans le temps et dans l'espace, l'activité économique, de mettre en avant nos producteurs, de se réapproprier un petit peu nos valeurs, notre culture, se relancer dans la terre. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont nos valeurs de base qu'il faut remettre en avant. Et si la Balagne était une île dans l'île, je pense que la pertinence d'un collectif et de l'action doit être régionale. Mais on le dit toujours, la Balagne, c'est l'île dans l'île. Donc je pense qu'il est essentiel que la Balagne se ressoude et qu'on retrouve enfin du dialogue, de l'échange et qu'on discute tous en commun. Voilà ce que je pouvais dire sur ce collectif.
Merci Bernard Guich. Et on passe la parole à Pierre Acquaviva.
Oui, en deux mots pour une conclusion. J'allais dire, la crainte qui est celle de tout le monde, c'est de se dire que suite à cette crise que nous devons vivre, qui est une crise assez inattendue, j'allais dire, on remette juste de l'essence dans le moteur et qu'on reparte encore plus vite pour essayer de compenser une partie des pertes que nous avons connues. Ça serait probablement... tout le monde le pense, une occasion ratée, parce que finalement d'une crise doit toujours naître des espoirs nouveaux, des idées nouvelles. On voyait bien que nos sociétés au sens large, bien au-delà de la Balagne, sont un peu dans un système qui est un peu à bout de souffle, en tout cas qui nous mène dans le mur. tous les problèmes à prendre en compte, économiques, environnementaux, etc. Donc comment les citoyens, les acteurs économiques peuvent peser sur des enjeux qui sont des enjeux aussi essentiels, aussi importants pour l'avenir. J'allais dire que on a souvent en face de nous les décideurs publics, j'allais dire presque en face, parce que on a tendance à leur reprocher tous les maux et à leur mettre la pression en obtenant souvent, nous semble-t-il, peu de choses. Je pense que souvent les décideurs publics sont isolés, coincés dans des logiques qui leur sont propres, de contraintes, d'environnement, d'attentes contradictoires des populations. Si ce collectif pouvait avoir la vocation d'être à la fois une source de réflexion, d'idées, mais aussi une source, j'allais dire, un peu de pression amicale, mais de pression auprès des décideurs publics pour dire, voilà, nous avons mené une réflexion de fond, essayons tous autant que nous sommes de casser les codes dans lesquels nous avons toujours vécu jusque-là et d'être innovants sur toutes les thématiques que l'on a évoquées.
Merci Pierre Acquavive. Jérémy Loyer, peut-être?
Oui, donc un mot, je tiens donc une fois de plus à saluer l'initiative de Laurent Lafarge de la création de ce collectif. Voilà, nous sommes plus de 4400 professionnels, si je dis pas de bêtises, en Balagne. Donc je pense que le fait de se retrouver, de travailler ensemble, voilà, dans un bien commun et comment dire, dans des domaines où chacun a sa spécialité, sur lequel on peut faire confiance à l'autre dans son domaine, sur les problématiques, les enjeux qu'il y a pour l'avenir et pour passer cette période. C'est vraiment un. Voilà, faut travailler ensemble. Il faut espérer pour ce qui me touche dans le domaine de la culture. Que de ce mal, comme on disait, renaisse un bien, c'est-à-dire pourquoi pas engager la population locale à redécouvrir nos groupes, à sortir de plus en plus, à faire un effort de tendre l'oreille vers ce qui se passe, ce qui va se créer et ce qui est en train de se faire, ce qui va pouvoir se faire, on l'espère, assez rapidement, d'un point de vue artistique. Donc voilà, je tiens à saluer toutes les démarches de nos collègues qui ont parlé à l'instant.
Et on termine, évidemment, avec Laurent Lafarge.
Oui, alors, pour ma part, voilà, de la même manière, expliquer l'importance donc du collectif, vous l'avez bien compris par le témoignage de tout le monde, moi je vais appuyer sur une chose, c'est que dans le passé, l'histoire nous l'a toujours dit, l'union fait la force. Nous arrivons toujours à tout lorsque nous sommes unis. À chaque fois que nous mettons nos égos de côté, nos problèmes, notre jalousie ou quoi que ce soit, on s'unit et on avance. À partir du moment où on va commencer à critiquer et à se diviser, là, dans ce cas-là, il y a soit un mouvement de point mort, soit même, je dirais, on va reculer. Donc, il faut garder à l'esprit de rester unis et d'avancer ensemble sur une direction. Et cette direction, elle est commune. En réalité, on travaille tout simplement, comme le disait Fabien, pour nos enfants aussi. Donc, on a cette fameuse direction commune. Il n'y a pas plus pour l'un que pour l'autre, même si on pourrait débattre que certains vont gagner plus que d'autres. Non, il faut vraiment voir que nous sommes sur une région où l'économie est circulante, direct que sur cette région. Et si nous travaillons ensemble, nous ne ferons que, je dirais, pérenniser cette économie. Voilà, donc j'espère que vous avez été attentifs à ce qui a été dit, que vous avez compris. Si vous avez d'autres questions, il faut pas oublier que donc le podcast sera mis
en ligne dans l'après-midi,
voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on regardera, on vous répondra, et surtout, n'hésitez pas à interagir, c'est très important, parce que c'est aussi le but de ce collectif. Ce n'est pas nous qui avons la science, c'est tout le monde, ces fameux 4400 professionnels. Les idées vont naître de là. Et quand on va aller voir nos élus pour leur dire, regardez, on s'est réunis, on a trouvé une orientation vers laquelle il faut aller, et qu'on va leur prouver par des chiffres, par A plus B, hein, parce que c'est notre métier à nous, de faire des prévisions, d'aller de l'avant. Donc quand on va leur proposer des solutions, ils ne pourront que valider. C'est une évidence même. J'ai une confiance totale en nos élus, encore une fois. Et bien sûr, comme je le disais, on n'est pas là pour critiquer les orientations de nos élus, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. On est là pour trouver des solutions avec eux et les accompagner s'ils le souhaitent, bien sûr.
Merci Laurent Lafarge, merci à toutes et tous d'être venus ce matin sur RCC Vous Exprimer. Voilà, cette émission donc sera réécoutable en fait, hein, podcast sur notre site www.radiocalvi.fr. Merci à Franck de Radio Balagne qui était à la technique du côté de l'Isola Rossa. Bonne journée à l'écoute d'RCC et à l'écoute de Radio Balagne.